Une méthode pour un gros profit. Peu d'efforts, David, roi d'Israël. David a construit un royaume glorieux, il avait tout. Il lui manque quelque chose de critique, une méthode qui fasse en sorte que chaque génération progresse, y compris que le régime existe. Une partie de la méthode consiste à organiser la méthode elle-même. Dans le système monarchique, le problème commence s'il y a un roi inadapté, tout le royaume s'effondre. Gengis Khan était un grand leader, mais il n'a pas non plus quitté un système, il a quitté des territoires conquis. Faire le tri dans la culture des citoyens fait partie de la méthode qui lui manquait. En Allemagne, Hitler a montré au monde comment aligner toute une génération sur les principes malades du gouvernement, de préférence sur les bons principes. Imaginez un ordinateur bloqué avec le système d'exploitation d'eau. Un système d'exploitation est comme le gouvernement, si vous ne le mettez pas à niveau, il est bloqué. Jefferson et Franklin ont laissé derrière eux un système de gouvernement doté d'un mécanisme d'autocorrection, mais en même temps, il était suffisamment bon pour que même sans de nombreux changements, il soit bon près de 200 ans plus tard. Aujourd'hui, nous commençons à sentir que ce système des États-Unis a également besoin d'une mise à niveau majeure qu'ils n'ont pas de mécanisme pour le mettre en œuvre. C'est le grand secret des gouvernements. C'est pourquoi il n'y a pas eu de continuation de David et il y a aussi eu une continuation de Jefferson. Il faut laisser derrière soi une méthode, sinon on laisse l'argent, et la nouvelle génération va le gaspiller. Il n'est pas instinctif de penser constamment à la méthode, car nous voulons nous promouvoir ou promouvoir nos idées. Le gros bénéfice avec un petit effort est de rendre l'administration plus efficace, c'est le facteur le plus influent sur la qualité de nos vies, dans tous les domaines de la vie, d'une plage propre à un ciel propre. Quand il y a un système de gouvernement, qui sait s'adapter à son temps et bien sûr travaille pour la prospérité des citoyens. La prospérité des citoyens et leur santé, leur satisfaction de vivre ainsi que la préservation et l'accroissement de leur capital. Tout cela se mesure facilement, les Romains, les Turcs, les Anglais et nous, chaque fois une puissance différente est venue jouer avec nous pour ses intérêts personnels. Toutes les quelques années, ils changent, mais aujourd'hui nous avons le plus vieil ennemi du peuple d'Israël, le peuple d'Israël lui-même. Nous, la dynastie du roi David, le Royaume-Uni d'Israël et de Juda, avons gouverné la région d'environ 1000 avant Jésus-Christ à 930 avant Jésus-Christ. Les royaumes divisés d'Israël et de Juda, 930 avant Jésus-Christ à 722 avant Jésus-Christ. Israël, et 586 avant Jésus-Christ. Jude, Assyrien, conquête du royaume d'Israël en 722 AV. Babyloniens, ont conquis le royaume de Juda en 586 avant Jésus-Christ. Perses, ont gouverné la région de 539 avant Jésus-Christ à 332 avant Jésus-Christ, après avoir conquis Babylone. Domination grecque, de 332 avant Jésus-Christ à 167 avant Jésus-Christ, y compris les empires ptolémaïques et séleucides. Dynastie hasmonéenne, indépendance juive, 167 avant Jésus-Christ à 63 avant Jésus-Christ. Les Romains, régnèrent sur la région de 63 avant Jésus-Christ à 324 après Jésus-Christ. Arabes, califats islamiques, 7e siècle à 1516. Turcs, Empire ottoman, 1516 à 1917. Britanniques, gouvernement sous mandat, 1917 à 1948. Nous la droite et nous la gauche, à partir de 1948. Nous contrôlons notre destin après 3000 ans. Asseyez-vous et lisez la suite, c'est important. Pourquoi le nouveau sionisme Herzl voulait un État juif? Jabotinsky s'est battu pour qu'il se batte et Ben Gurion l'a fondé. Maintenant, c'est la continuation du sionisme. Le nouveau sionisme est un nouveau pays. Nous n'avons pas besoin d'un autre pays, nous avons juste besoin de mettre à niveau le pays existant, c'est plus facile. Ils traitent tous le symptôme et non le problème. Le problème, ce sont les autorités non séparées et le choix des partis et non les élections sémitiques. Asseyez-vous. Chaque citoyen est un fils de roi. Tout le monde a été créé un fils de roi selon le poème de Jabotinsky, mais il ne suffit pas de chanter à ce sujet. Nous devons traiter tous les résidents comme des rois et faire chaque acte et chaque décision pour la prospérité des résidents. Aujourd'hui, cela ne se produit pas en Israël et presque nulle part dans le monde, sauf dans les pays nordiques et partiellement aux États-Unis. La prospérité des citoyens est une mesure qui inclut la santé des citoyens, leur satisfaction à l'égard de la vie, ainsi que le niveau de vie, qui se mesure en argent. La préservation du capital génère plus de richesses. Les États-Unis ont montré que la préservation du capital des citoyens à travers les lois et l'application contribue énormément à la prospérité des citoyens, les citoyens se construisent et en même temps l'État, quand ils gardent leur capitale, ils se sentent en sécurité pour créer. Israël semble avoir les gens les plus talentueux du monde, mais ce ne se reflète pas dans le niveau de vie et la prospérité des résidents. Quelque chose ne fonctionne pas comme on pourrait s'y attendre de la part de personnes de cette qualité. J'ai perdu le jeton alors que je roulais dans un Uber avec un chauffeur de taxi vietnamien dont le père était un officier supérieur de l'armée sud-vietnamienne et était parrainé par les États-Unis. Il avait les larmes aux yeux même s'il est dans l'armée américaine aujourd'hui et qu'il a déménagé aux États-Unis il y a 30 ans. Il m'a parlé avec passion du Vietnam et pourquoi il a atteint le fond. Le motif était bien sûr l'argent et la prise de contrôle de la richesse du Sud riche par le Nord pauvre, a-t-il dit, et cela m'a connecté ce qui se passe en Israël. Quand un régime ne protège pas la richesse du peuple et sa liberté mais cherche des moyens de le prendre, les choses se passent très mal dans le pays. Il est donc important pour la vie du pays que le gouvernement protège l'argent du peuple ainsi que leur liberté. L'argent est une forme de liberté. Les États-Unis sont construits exactement sur cela avec des lois incroyables pour protéger la richesse et la liberté. Je ne parle pas de ne pas prélever d'impôts, mais de protéger la propriété du peuple. Non seulement je le pense, mais c'est également le cas de Douglas North, qui est lauréat du prix Nobel. La principale contribution de North a été sa focalisation sur les institutions en tant que moteur fondamental de la performance économique. Les institutions sont les règles du jeu dans la société, à la fois formelles, comme les lois, et informelles, comme les normes sociales. Celles-ci incluent tout, des droits de propriété et de l'exécution des contrats à la primauté du droit et aux systèmes gouvernementaux transparents. Le gouvernement, selon North, est le principal créateur et exécuteur de ces règles. Par conséquent, dans la mesure où ces cadres institutionnels encouragent l'activité économique productive, l'innovation et les échanges, le gouvernement contribue à la prospérité de la population. Par exemple, en faisant respecter les droits de propriété, les gouvernements donnent aux personnes et aux entreprises la confiance nécessaire pour investir et innover, sachant que leurs investissements seront protégés. En préservant l'état de droit et en offrant un environnement politique stable, les gouvernements peuvent aider à créer la prévisibilité dont les entreprises ont besoin pour planifier l'avenir. Lorsqu'elles sont mesurées, elles savent si elles se sont améliorées ou détruites. En fin de compte, l'objectif du gouvernement est de la prospérité à long terme pour les habitants et l'environnement, tels sont les paramètres qu'il convient de maximiser et de mesurer. Dans les différents pays, il est facile de voir que le système de gouvernement a le plus d'influence sur la prospérité des résidents. Le gouvernement devrait se concentrer uniquement sur ce qui améliore la vie des citoyens à long terme et se concentrer uniquement sur cela. Lorsque la prospérité est mesurée, les citoyens ne sont pas seulement influencés par les médias et ce que le gouvernement leur dit sur la qualité du gouvernement, mais ils ont un paramètre mesurable sur lequel le gouvernement est testé, l'indice de prospérité, auquel nous reviendrons plus tard. La logique devrait être très simple, voir où dans le monde il y a la démocratie la plus stable, avec le plus d'années d'expérience et à partir de là dériver le système souhaité avec nos améliorations. Alors, où une telle méthode existe-t-elle? Aux États-Unis. Un État juif a quelque chose de trompeur en disant, séparons la religion de l'État, mais dans la réalité d'Israël, c'est impossible. Si nous ne devenons pas un État juif, nous ne le deviendrons probablement pas. Nos voisins ne nous laisseront pas être un pays libre. La seule défense pour cela est de faire de nous un État juif. Dans un univers restrictif comme les États-Unis, nous n'avons pas besoin d'une définition de la religion. En Israël, nous avons besoin d'une définition de la religion pour que nous continuions à être un peuple libre. Personnellement, même sans la menace existentielle de notre voisin, je penserais qu'il vaudrait mieux que nous soyons définis comme un État juif, cela nous unit et nous donne de belles valeurs pour la société et l'individu. Mais même quand j'y pense librement avec des yeux complètement laïcs, c'est une chose nécessaire dans la réalité israélienne. Creusé au lieu de Harim Bank of Israel publie des recherches sur un shekel numérique depuis des années. Au lieu de ramasser le shekel numérique dans quelques mois en mode bêta, il discute et discute, et si? S'il était habitué à travailler comme dans la citoyenneté, il l'aurait compris en quelques mois et aurait vu comment cela fonctionne. Ceci est un exemple de l'ensemble de l'administration et de son fonctionnement. Nous devons faire un changement général dans la façon dont le gouvernement opère en Israël et dans le monde afin de provoquer la prospérité des citoyens. La liberté de comprendre, de parler simplement. Les citoyens veulent un langage simple. Si le citoyen ne comprend pas ce que le gouvernement dit qu'il y a un problème à être vraiment libre, l'utilisation d'un langage simple dans tous les domaines du gouvernement, y compris le judiciaire et les autres ministères, est essentielle pour diverses raisons. La simplification du langage favorise la transparence, l'accessibilité, la compréhension et l'efficacité, qui à leur tour contribuent à favoriser la confiance, la participation et l'inclusion dans une société démocratique. En décomposant le jargon complexe et la terminologie juridique, le gouvernement peut communiquer efficacement les politiques et les décisions au public, lui permettant de faire des choix éclairés et de participer plus activement aux affaires civiques. Construire un système de questionnement comme ChatGPT au-dessus de la loi est déjà très facile. Les entreprises devraient également être obligées de simplement parler aux clients. Éliminer complètement les lettres minuscules incompréhensibles. La version complexe contient un langage juridique dense et une formulation formelle, ce qui peut la rendre difficile à comprendre pour de nombreuses personnes. En revanche, la version simple véhicule les mêmes informations essentielles dans un langage clair et courant, plus accessible et plus facile à comprendre pour la majorité de la population. Version complexe de la loi en cas de non-respect par un locataire de la terme convenue d'un bail ou d'un bail juridiquement contraignant, le propriétaire remettra au locataire un avis écrit précisant la nature de la violation, les mesures correctives requises. Le locataire disposera d'un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours, pour remédier à l'infraction susmentionnée, sous peine d'engager des poursuites judiciaires concernant la résiliation du contrat de bail et l'expulsion. De son bail, le propriétaire doit lui remettre un avertissement écrit expliquant ce qu'il a fait de mal et comment y remédier. Le locataire a jusqu'à 30 jours pour résoudre le problème ou il peut faire face à un procès pour résilier son bail et elle, expulsée de la propriété. Élection pour la Knesset et pour le Premier ministre. Quel est le problème avec le choix des « un parti comme en Israël au jour » Lui là-bas est un modèle qui vend le parti, et avec lui, vous obtenez une liste de candidats qui ne le sont pas. Vous avez vraiment choisi et vous ne choisiriez probablement pas, il suffit de regarder les personnes qui sont entrées à la Knesset israélienne ces dernières années, je ne veux pas les insulter donc je ne dirai pas de nom. J'espère aussi qu'il y aura un problème de « modèle » et pas seulement de « modèle ». Vous pouvez voir qu'aux États-Unis, où les candidats sont choisis par leur nom, c'est-à-dire par sélection sémitique, pour le Sénat et le Congrès, bien que même s'ils représentent un certain parti, dès que la méthode de sélection est la sélection directe, le parti ne sera pas nommé des gens indignes, parce qu'ils savent que le public ne les choisira pas. Vous pouvez voir les différences de niveau des membres du Congrès aux États-Unis par rapport à la Knesset en Israël. Il y a peu de membres du Congrès et du Sénat qui sont d'un niveau bas. La solution est simple, l'élection directe de chaque candidat à la Knesset, au poste de Premier ministre ou à la Chambre du gouvernement. Aux États-Unis, des personnes spécifiques sont choisies. Aux États-Unis, lorsque les gens vont voter aux élections, une personne est choisie, pas un parti. Décomposons-le selon les différents types d'élections. Élection présidentielle tous les 4 ans, les Américains votent pour un président et un vice-président. Alors que ces candidats sont généralement associés à un parti politique, comme les démocrates ou les républicains, les électeurs choisissent en fait les candidats individuels au lieu de simplement soutenir le parti. Donc, si vous votez pour Jane Doe, qui est démocrate, vous votez techniquement pour Jane Doe, pas pour le parti démocrate. Élection au Congrès. Le Congrès américain se compose de deux parties, la Chambre des représentants et le Sénat. Les membres de la Chambre ont un mandat de 2 ans, tandis que les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Chambre des représentants. Chacun des 435 districts américains élit une personne pour le représenter à la Chambre. Comme lors des élections présidentielles, alors que les candidats sont souvent affiliés à un parti politique, les électeurs choisissent la personne qui, selon eux, représentera le mieux leur circonscription. Élection au Sénat. Chaque État des États-Unis, quelle que soit sa taille, élit 2 sénateurs. Les élections sénatoriales sont échelonnées, ce qui signifie qu'environ un tiers seulement des 100 sièges du Sénat sont à pourvoir tous les 2 ans. Encore une fois, vous votez pour une personne, pas pour un parti. Ainsi, dans tous ces cas, les électeurs choisissent les personnes qui, selon eux, représenteront le mieux leurs intérêts, que ce soit au niveau national, en tant que président ou au Sénat, ou au niveau local. Niveau, à la Chambre des représentants. Bien que le parti politique d'un candidat puisse vous en dire beaucoup sur ses convictions et ses politiques, les élections consistent toujours techniquement à choisir une personne, pas un parti. La loyauté est envers l'électeur et non envers le chef du parti. Élection personnelle, où les électeurs choisissent des candidats individuels plutôt que voter pour une liste de partis, ont un certain nombre d'énormes avantages à élire un premier ministre, Government House et la Knesset. Cela change complètement la qualité des élus. Bien qu'ils appartiendront à un parti, ils se sentiront fidèles aux personnes qui les ont élus et non au chef du parti qui les a inscrits sur la liste. En augmentant la représentation locale, les élections en personne peuvent renforcer le lien entre les représentants et leurs électeurs, car les candidats sont plus susceptibles d'avoir une compréhension approfondie des problèmes et des préoccupations locaux. Cela peut conduire à des solutions politiques plus ciblées et efficaces qui répondent aux besoins spécifiques de leur communauté. Responsabilité. Lorsque les électeurs choisissent des candidats individuels au lieu de voter pour un parti, les représentants sont plus responsables envers leurs électeurs. Cela peut les encourager à être plus sensibles aux préoccupations locales et à travailler plus dur pour tenir les promesses de la campagne. Talent et capacité. Pas politique. En se concentrant sur les compétences et les idées personnelles, les élections personnelles déplacent l'accent de l'affiliation à un parti vers les candidats eux-mêmes, encourageant les électeurs à valoriser leurs compétences, leur expérience et leur position politique. Cela peut favoriser un processus électoral basé sur des enjeux et plus méritocratique. Il n'y a pas de liste toute faite d'hommes d'affaires fidèles au chef du parti. Ils n'entrent pas automatiquement, ce qui est très important. Je ne veux pas donner de noms qui sont entrés à la Knesset ces dernières années en tant que candidat leader, afin de ne pas les offenser, mais le public ne les élirait pas directement à la Knesset. Point. Les élections en ligne et anonymes réduisent l'influence du favoritisme politique et du népotisme. Cela permet un processus de sélection plus méritocratique, garantissant que seuls les candidats les plus talentueux et les plus méritants se hissent au sommet. Le peuple scrute chaque représentant qui entre à la Knesset, contrairement à aujourd'hui en Israël où le parti détermine qui entrera à la Knesset. Réduire l'influence de la politique des partis, les élections personnelles peuvent réduire le pouvoir de la direction du parti et réduire l'influence des agendas des partis sur la politique fabrication. Cela peut conduire à un processus législatif plus indépendant et délibératif, où les représentants sont libres de voter selon leur conscience et selon les intérêts de leurs électeurs. Une plus grande diversité de représentation et de choix personnels peut conduire à une gamme plus diversifiée de candidats à élire, parce qu'ils ne sont pas limités par des listes de partis ou des idéologies. Cela peut se traduire par un congrès plus inclusif et représentatif, avec un plus large éventail de points de vue et d'idées. En encourageant la coopération entre les partis, en minimisant la loyauté envers le parti, les élections personnelles peuvent favoriser une atmosphère plus collaborative et bipartite, comme au Congrès. Les représentants peuvent être plus disposés à travailler au-delà des lignes de parti pour trouver un terrain d'entente et développer des solutions politiques efficaces. Le Canada, l'Australie et le Japon élisent également des candidats plutôt que des partis. Des individus, parfois à côté ou au-dessus de leur affiliation à un parti. Dans le système canadien, les députés individuels représentent des circonscriptions spécifiques. Cela exige que les candidats aient des préoccupations locales et établissent une réputation personnelle, indépendamment de leur affiliation à un parti. Certains députés canadiens ont cultivé au fil du temps des marques personnelles fortes qui demeurent résilientes même lorsque la popularité générale de leur parti décline. L'Australie, en revanche, combine un système de vote préférentiel pour sa chambre basse avec un vote unique transférable pour le Sénat. Alors que les grands partis dominent la chambre basse, le Sénat voit souvent une représentation diversifiée, y compris des personnes non affiliées aux principaux partis. Ce mélange garantit qu'un plus large éventail de points de vue est pris en compte, et les principaux partis doivent s'engager avec ces voix diverses, offrant un dialogue législatif plus riche. Le Japon intègre son approche électorale en combinant plusieurs circonscriptions uninominales avec un système de représentation proportionnelle. Dans les circonscriptions similaires à l'approche du Canada, les candidats individuels doivent obtenir plus de votes que leurs concurrents, ce qui met l'accent sur leur pertinence locale et leur lien avec les électeurs. Cette intégration dans le système japonais harmonise la politique des partis avec l'influence individuelle, permettant aux politiciens capables d'articuler les préoccupations locales d'établir une présence politique significative. La tendance de certains des pays les plus riches du monde à combiner des systèmes qui valorisent les politiciens individuels a plusieurs raisons fondamentales. Les démocraties établies, que l'on trouve souvent dans les pays riches, ont besoin de stabilité politique. En élisant des représentants plutôt que des partis, ces systèmes peuvent contrer une polarisation extrême et favoriser la coopération bipartite ou multipartite. Ces pays, avec leur diversité économique et régionale, bénéficient de candidats individuels qui peuvent exprimer les préoccupations uniques de leurs électeurs, tout en garantissant des politiques nationales qui reflètent les divers besoins locaux. De plus, en tant que contrôle contre la domination incontrôlée des partis, cet accent mis sur les individus peut garantir que les décisions sont vues sous plusieurs angles. Les complexités économiques des pays prospères nécessitent des solutions politiques diverses, qui sont souvent mieux prises en compte lorsqu'un plus large éventail d'opinions politiques existe dans les organes législatifs. De plus, à mesure que ces démocraties mûrissent, les électeurs commencent à exiger une représentation plus nuancée, recherchant souvent des candidats qui font preuve d'intégrité et d'expertise au-delà des manifestes des partis. Dans l'ensemble, les systèmes politiques de ces pays ont évolué pour s'adapter au changement des besoins sociaux, à la dynamique mondiale et à la croissance de leurs économies, reflétant un équilibre entre les objectifs généraux des partis et les besoins spécifiques des circonscriptions. Comme Google uniquement pour son gouvernement, la loi du spiral, la loi de la spirale est l'une des choses les plus importantes pour bénéficier de la libre pensée. Le procédé celui-ci fonctionne partout. Essayez, obtenez des commentaires, améliorez, réessayez, etc. Notre cerveau fonctionne exactement comme ça dans ces processus, c'est ainsi que nous apprenons à donner l'exemple. Pour qu'Israël et la vérité pour tout pays améliore la vie de ses citoyens pendant de nombreuses générations, le processus doit être continu et ne jamais s'arrêter. L'environnement change et la nature des citoyens, donc tous les mécanismes gouvernementaux doivent constamment subir des ajustements et des essais. Il y a une formule. Il est simple de développer des systèmes et c'est le modèle en spirale. Dans ce modèle, qui s'appelle Flywheel en anglais, vous sont constamment mis à jour et vérifient si cela améliore le produit ou le service du gouvernement et la prospérité des résidents. Il y a toute une section sur la façon de le mesurer facilement. Il y a un livre légendaire sur la méthode du volant d'inertie de Jim Collins. Tesla a été construit en utilisant la méthode en spirale. Faire des choses parfaites et ne pas s'arrêter à 70% comme en Israël. J'ai acheté une Tesla pour voir si cela valait la peine d'acheter le stock, et quand j'ai transpiré les 100 premiers mètres, j'ai tout compris, c'était comme l'iPhone en 2009, plusieurs niveaux au-delà de ce que je connaissais. Tesla a des mises à niveau logicielles et à chaque mise à niveau, je remarque que la voiture roule mieux toute seule. C'est exactement un volant qu'Elon Musk a construit, la voiture s'améliore tous les quelques mois. Il est impossible de comprendre Tesla sans en conduire une. Je l'ai loué sur l'application Turo. J'ai aussi essayé Lucid, j'ai vu que c'était encombrant et il faisait exactement l'inverse de Tesla, il compliquait ce que voit le chauffeur, bref j'ai fait un cours dessus histoire de jouer un peu et de récupérer le coût du déplacement pour toute la famille pour un an. Cela a retourné le coût du voyage. La méthode en spirale du gouvernement. Imaginez maintenant la méthode en spirale du gouvernement, l'améliorant constamment, en fonction de la prospérité des citoyens, et non par conjecture ou faux médias. Non seulement les services pour les résidents tels comme l'économie, la santé, la qualité de l'environnement et l'éducation ont besoin qu'il y ait leur propre spirale, mais surtout le système de gouvernance a besoin d'un mécanisme qui l'améliore constamment et l'aménage, et c'est ce que j'appellerai plus tard, la maison du gouvernement. Beaucoup des processus des entreprises commerciales sur une bonne forme de gouvernement. Si Israël est guidé dans tous les domaines du gouvernement par une amélioration constante, en recevant des commentaires, de l'expérience et en poursuivant ensuite l'amélioration, Israël sera le pays le plus éclairé au monde avec la prospérité des habitants qui n'a jamais été vue sur la face de la terre. Nos ennemis autour n'ont fait que nous détériorer et ne nuisent pas à notre éventuelle prospérité. Faire le bon geste n'est possible qu'en mesurant. Si vous n'avez pas la force de tout lire, prenez ça, au final on aimerait que le gouvernement fasse simplement ce qu'il faut. Cela signifie que l'intérêt du gouvernement devrait être la prospérité à long terme des résidents et de l'environnement. Ce sont des paramètres qu'il faut maximiser et mesurer. Une des manières d'y parvenir est de séparer le policier, le gouvernement, du juge, la Knesset. La détérioration de l'intelligence moyenne de la population, due à de nombreuses raisons mais les principales sont la détérioration du système éducatif, le manque de lecture et de regarder les écrans et les vidéos. La seule façon d'inverser la tendance est une révolution dans le système éducatif et l'agencement du système gouvernemental en Israël. L'intelligence décline aux USA selon cette étude. Comme Franklin D. Roosevelt, exactement ce que Franklin a fait aux USA pendant la Grande Dépression, la loi Parrot devrait être appliquée et faite en Israël dans tous les domaines, afin de donner naissance. Franklin D. Roosevelt, souvent connu sous ses initiales FDR, était le 32e président des États-Unis, a servi 4 mandats sans précédent entre 1933 et 1945. Sa présidence, qui a duré la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, a été caractérisée par son audace. Volonté d'expérimenter de nouvelles approches du gouvernement. Le point de vue de Roosevelt peut être résumé dans l'une de ses citations les plus célèbres. Il est de bon sens de prendre une méthode et de l'essayer. Si elle échoue, admettez-la honnêtement et essayez-en une autre. Mais surtout, essayez quelque chose. Cette philosophie est devenue le principe directeur de ce que l'on appellera plus tard le New Deal. Le New Deal de FDR, mis en œuvre en réponse à l'impact économique dévastateur de la Grande Dépression, était une série de programmes expérimentaux, de projets de travaux publics, de réformes financières et de réglementations. Ces programmes sont conçus pour soulager les chômeurs, stimuler la reprise économique et prévenir de futures dépressions. Ils étaient révolutionnaires à l'époque, représentant un changement sismique dans la relation entre le gouvernement et ses citoyens, et élargissant le rôle du gouvernement fédéral dans l'économie. Certains des programmes les plus importants du New Deal comprenaient le Civilian Conservation Corps, CCC, le Public Works Administration, PWA, l'Agricultural Adjustment Administration, AAA, et la National Insurance Administration, SSA. Chacun de ces programmes était une nouvelle expérience dans l'administration et représentait l'engagement de Roosevelt envers des solutions innovantes. L'approche de Roosevelt allait au-delà de la politique intérieure. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la direction de FDR s'est à nouveau caractérisée par une volonté de repousser les limites. Par exemple, le Lend-Lease Act de 1941 était une nouvelle approche pour apporter un soutien aux nations alliées sans impliquer directement les États-Unis dans les combats, une solution pragmatique et innovante qui a remodelé la politique étrangère américaine et son rôle dans le monde. En plus de ces changements de politique importants, Roosevelt a également introduit des innovations. Comment la présidence communique avec le public américain? C'était une utilisation pionnière du moyen relativement nouveau de la radio pour la communication politique. Malgré les critiques et l'opposition politique, Roosevelt était inébranlable dans sa volonté d'expérimenter de nouvelles stratégies. Sa volonté d'essayer de nouvelles choses, même face à l'incertitude et à l'échec potentiel, fait partie de ce qui définit son héritage présidentiel. Tout au long de ses 12 années au pouvoir, FDR a fait preuve d'une approche pragmatique et expérimentale du leadership. Sa volonté de risquer l'échec dans la recherche de solutions à des défis sans précédent a redéfini le rôle du gouvernement dans la société américaine, tout en créant des précédents qui continuent à façonner la politique aujourd'hui. Est une erreur. Au niveau de l'État, l'indice de prospérité des résidents doit être maximisé, ce qui inclut la santé. Le but de la mesure est le rôle du gouvernement de fournir le terrain pour que les citoyens s'épanouissent et prospèrent, mais pas d'intervenir de manière excessive. L'équilibre ici est pour caractériser la méthode initiale, nous devons comprendre quel est le but que nous visons. L'objectif est de provoquer la prospérité des citoyens et il est composé de deux variables. La santé des citoyens, une mesure facile à calculer, le poids, le nombre de visites chez le médecin. La satisfaction des citoyens à l'égard de la vie en Israël, une mesure facile à vérifier en interrogeant. Cet indice ne peut être atteint qu'à travers une application nationale qui combinera tous les services et la communication entre le gouvernement et les citoyens à développer par le ministère du Numérique, le système de gouvernance le plus influent dans différents pays du monde. Il est facile de voir qu'un bon système de gouvernance est le facteur le plus influent de la prospérité des résidents. Un système d'exploitation pour ordinateur est comme un exemple de la façon dont le système gouvernemental devrait fonctionner dans la vie de ses citoyens. Les ordinateurs ne fonctionneront pas bien sans des mises à niveau urgentes de leur système d'exploitation, exactement de la même manière que le système gouvernemental a besoin de mises à niveau fréquentes, mais dans practice ne reçoit pas ces mises à jour car il n'y a pas d'organisme responsable de ces mises à jour. Les ordinateurs ne se mettent pas à jour eux-mêmes, mais reçoivent des mises à jour de Microsoft ou d'Apple. C'est exactement ainsi que le système de gouvernance devrait recevoir une mise à jour, mais pas de l'organe directeur mais d'une partie externe. Cette partie externe sera appelée « la chambre du gouvernement, chambre suprême ». La séparation des autorités et la constitution la Knesset est uniquement législative et non le gouverneur la Knesset et l'autorité législative d'Israël, la chambre des représentants. Elle compte 120 membres élus au scrutin démocratique secret, dans le cadre d'un processus distinct des élections présidentielles et des élections à la chambre du gouvernement. La composition de la Chambre des représentants sera limitée à 4 mandats de 16 ans en plus des conditions de seuil. Gouvernement, se séparer de la Knesset et établir une autorité exécutive. Le gouvernement se compose de ministres et d'un président, il est subordonné à la Knesset et est responsable de la gestion de toutes les branches de l'autorité exécutive. La position du Premier ministre en Israël sera combinée avec le poste de président de l'État, comme il est d'usage dans le système de gouvernement américain, et il sera limité à 2 mandats à vie. Les ministres sont élus et nommés par le président sortant uniquement, avec l'approbation de la Chambre du gouvernement. Les ministres auront une formation professionnelle en rapport avec la fonction gouvernementale qui leur est confiée et ils rempliront les conditions minimales fixées par la Chambre du gouvernement. ceux qui ont été ministres ne seront pas autorisés à siéger à la Chambre du gouvernement ou à la Chambre des députés. Représentants. La séparation entre un gouverneur et un législateur a été précisée dans le livre de Herzl Altneuland. Les postes salariés sont pourvus uniquement sur la base des qualifications professionnelles des candidats. Les hommes d'affaires partisans, quel que soit leur parti, rencontrent des préjugés sains, de la part de l'ensemble du public. Il est interdit aux fonctionnaires actifs de participer au débat public. Le pouvoir judiciaire. Les pouvoirs du pouvoir judiciaire en Israël sont dévolus au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire comprend le système judiciaire en Israël dirigé par la Cour suprême et les tribunaux. Le système judiciaire comprend trois tribunaux, la Cour suprême, les tribunaux de district et les tribunaux de première instance. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie contre l'ingérence des pouvoirs législatifs et exécutifs. Pouvoir de déterminer les règles du jeu, la Chambre du gouvernement. La Chambre du gouvernement est chargée du système électoral et des questions concernant les élections. Le gouvernement ne peut pas se corriger, c'est la nature des organismes publics et privés, et des êtres humains. C'est pourquoi il faut une nouvelle institution à qui on fera confiance pour changer la structure du gouvernement et des élections, mettre en œuvre de nouvelles technologies et adapter la structure à la nouvelle réalité qui change constamment, tout autre nombre logique, qui sont parmi les plus sages et le plus honnête parmi le peuple. La Chambre du gouvernement s'occupe de la structure organisationnelle et non des décisions et parmi ses fonctions d'annuler ou d'ajouter des bureaux tels que le ministère de la Consommation ou le ministère des Destinations. Les personnes, les entreprises et les pays doivent s'adapter à la réalité changeante afin d'avoir du succès. Comme Jim Collins l'a écrit dans son livre Built Forever. Chaque membre élu exercera ses fonctions pendant 6 ans. Les élections des représentants élus de la Chambre du gouvernement auront lieu tous les 2 ans et, à chaque tour, 8 représentants élus seront nommés pour être réélus. La raison en est qu'il y aura toujours des membres de la maison du gouvernement ayant de l'expérience et qu'ils ne seront pas tous remplacés en même temps, de sorte que tous les 2 ans, un tiers des élus sont remplacés. Exemple du rôle de la Chambre du gouvernement. L'ajout ou la suppression d'un poste gouvernemental sera considéré comme un changement de gouvernement et nécessitera l'approbation des membres élus de la Chambre du gouvernement. Contrôler le fonctionnement de la Chambre des représentants, Knesset. L'appliquer. Élections numériques. Constitution pour nous protéger de nous-mêmes. Chaque nation, y compris Israël, a besoin d'une constitution pour plusieurs raisons, telles que la préservation de la liberté et de la liberté individuelle. Un exemple de cette protection serait de s'assurer que les individus ont le droit à la liberté de parole et d'expression. Une autre raison est la culture de la cohésion entre les citoyens, qui peut être obtenue en établissant un ensemble commun de valeurs et de principes auxquels chacun peut adhérer. En outre, une constitution peut aider à résoudre les différends en fournissant un cadre pour la gestion des conflits. Par exemple, s'il y a un différend entre 2 parties concernant les droits de propriété, la Constitution peut définir les voies juridiques appropriées pour résoudre le problème. En outre, les constitutions servent de base au système juridique d'un pays et guident les tribunaux dans leur processus décisionnel. Certains principes essentiels d'une constitution, comme celle d'Israël, incluent la reconnaissance de la nation en tant qu'État juif, démocratique et présidentiel. Cela garantit la préservation de l'identité culturelle unique du pays tout en maintenant les valeurs démocratiques. Un autre principe essentiel est l'avantage des amendements constitutionnels, car les sociétés et les systèmes en développement doivent s'adapter en conséquence. Par exemple, les États-Unis ont amendé leur constitution 27 fois pour traiter divers problèmes sociaux, politiques et économiques. Une constitution doit également définir clairement l'étendue de la liberté et de la liberté d'une personne, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces droits peuvent être limités. Point. Par exemple, la liberté d'expression peut être limitée dans les cas où elle incite à la violence ou constitue une menace pour la sécurité nationale. Enfin, la séparation des pouvoirs est un aspect crucial d'une constitution. Cela signifie une répartition des pouvoirs entre le pouvoir législatif, par exemple, la Chambre des représentants, le pouvoir exécutif, par exemple, le président et le gouvernement qu'il nomme, et le pouvoir judiciaire, par exemple, le système judiciaire. Cette séparation aide à empêcher la concentration du pouvoir dans une seule branche et maintient un système de frein. Les élections en ligne ne trouvent pas une seule faille dans les votes. Ce n'est pas qu'il y ait un complot. Les gouverneurs croient simplement à des absurdités sur le secret et la sécurité, lorsque les gens transfèrent des milliards de shekels par an sur Internet. C'est vraiment drôle. Lorsqu'un responsable informatique m'a dit qu'il était dangereux de voter en ligne à cause des faux, j'ai compris pourquoi cela n'avait pas été fait depuis des décennies. Une peur occasionnelle de l'inconnu. Après tout, des milliards de nids sont transférés chaque jour sans falsification. Il est clair que cela est également possible pour le vote en ligne. Les élections en ligne et virtuelles offrent de nombreux avantages, notamment une commodité accrue, des coûts réduits, un pourcentage de vote plus élevé et une sécurité améliorée. Quand j'essaie de penser aux lacunes, je ne trouve pas un seul inconvénient. Et des soldes. Des transferts de millions de dollars et des élections en ligne, n'est-ce pas? J'ai transféré un montant d'un million de shekels en appuyant sur un bouton et j'ai signé des accords d'une valeur de centaines de millions de shekels quand j'étais PDG de plus 500, avec la simple pression d'un bouton et tous ces systèmes m'ont donné la sécurité absolue et bien meilleure qu'un fax ou un appel téléphonique. Même la personne moyenne signe aujourd'hui une hypothèque numériquement, ce sont des décisions qui nous semblent plus fatidiques sur le plan personnel que des choix. Il est donc clair qu'il n'y a aucun obstacle aux élections en ligne. Toutes les élections seront gérées numériquement par le comité électoral nommé par la Chambre du gouvernement. Une fois tous les 4 ans, le président d'Israël est élu lors d'élections virtuelles numériques. Le président nomme les ministres professionnels du gouvernement qui ne sont pas membres de la Knesset ou de la Chambre du gouvernement, 8 nouveaux membres de la Chambre du gouvernement et ils sont également en élection numérique. Et une fois tous les 2 ans, 60 représentants sont élus à la Chambre des représentants lors d'élections numériques. Avantages des élections en ligne et personnelles. Facilité de vote pour les citoyens. Le vote en ligne permet aux gens de voter dans le confort de leur domicile ou de leur lieu de travail, éliminant ainsi le besoin de se rendre au bureau de vote. Ceci est particulièrement utile pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes vivant dans des régions éloignées. Faible budget pour les élections. Le vote en ligne réduit le besoin d'infrastructures physiques telles que les bureaux de vote, les urnes et les isoloirs. Cela conduit à des économies importantes, libérant des ressources qui peuvent être affectées à d'autres domaines importants, tels que l'éducation ou la santé. Il n'y a pas de jour chômé car les gens peuvent voter en ligne à leur convenance, il n'y a pas besoin de jour férié pour faciliter le vote. Cela signifie que les entreprises et les écoles peuvent continuer à fonctionner, minimisant les perturbations de l'économie et de la vie quotidienne. Réduire la possibilité de fraude. Les systèmes de vote en ligne peuvent utiliser des mesures de sécurité avancées, telles que la technologie blockchain, pour garantir que les votes sont sécurisés et protégés contre la falsification. Pas de bulletin de vote invalide dans les élections en ligne, le risque de votes invalides en raison d'une erreur humaine, comme des bulletins de vote incorrects ou des marques perdues, est moindre. Taux de participation élevé. La commodité du vote en ligne peut encourager une plus grande participation des électeurs, car les gens sont plus susceptibles de voter lorsque c'est facile et accessible. Option pour les Israéliens de voter à l'étranger. Le vote en ligne permet aux citoyens vivant à l'étranger de participer aux élections dans leur pays d'origine sans avoir à se déplacer. Cela peut conduire à une plus grande implication politique et à une plus grande représentation de ces personnes. Résultats immédiats dans le vote en ligne, les résultats peuvent être marqués et annoncés presque immédiatement après la clôture du scrutin, éliminant ainsi les retards associés au dépouillement manuel des votes. Possibilité de référendum facilement. Les plateformes de vote en ligne facilitent la tenue de référendums sur des questions importantes. Cela permet une démocratie plus directe, car les citoyens peuvent avoir un mot à dire plus immédiat dans les décisions politiques qui affectent leur vie. Avantage d'un système présidentiel en Israël. Le système traitera le problème et non le symptôme. Le traitement du problème est nécessaire une fois et il empêche le retour des symptômes. Un exemple de symptôme, Mandelblit est dépeint comme un vrai homme, au-dessus de son âge. Ilana Dayan a donné une interview révélatrice. Mandelblit dit à juste titre, « Je respecte la loi et la loi m'a dit de déposer un acte d'accusation. » Bibi dit naturellement, « Je ne l'ai pas fait. Je suis innocent. Il a entièrement raison. Les deux ont raison. Et bien sûr, il n'est pas juste de juger Binyamin Netanyahou sans procès et Mandelblit pour avoir respecté la loi et son interprétation de la loi. Mais quelle est la racine du problème? Et c'est ce qui manque à tout le monde, ce qui importe c'est la prospérité des citoyens, et non la justice privée de Benjamin ou de Mandelblit. Dans l'intérêt de la prospérité des citoyens, il est interdit pendant 7 ans de traiter de quelque chose qui m'intéresse en tant que citoyen, cela n'affectera pas l'éducation de nos enfants ou l'argent que nous gagnons ou le niveau de notre santé. Pour la prospérité des citoyens, ils ont besoin d'une partie externe, Government House, une nouvelle autorité, pour intervenir lorsqu'il y a des bugs dans le système gouvernemental. Le problème n'est pas dans l'application, le problème est dans le système d'exploitation. C'est comme mes enfants qui se battent dans le salon, il n'y a rien pour commencer à enquêter sur qui est à blâmer et qui et quoi ça ne m'intéresse pas, mon problème est qu'ils se battent dans le salon. Si c'est le cas, la solution à long terme pour traiter le problème et non le symptôme est de ne pas enquêter sur les premiers ministres sortants, ceux-ci sont simplement de limiter la durée du mandat de premier ministre à 2 mandats. Je préfère un premier ministre qui ne se gêne pas et qui s'occupe de nous citoyens. Tout comme vous ne voulez pas que votre chirurgien, pas nous, vous opère avec un moustique dans l'œil. Une maison du gouvernement le résoudrait rapidement et définitivement. Des solutions de ce type devraient toujours s'imposer à l'avenir et s'appliquer à ceux qui entrent dans l'administration et non aux titulaires afin d'éviter un conflit d'intérêts. Une période continue de fondateurs, aux États-Unis, le travail des fondateurs de Washington, Jefferson, Adams pour mettre en œuvre le système ont créé l'Empire américain uni qui travaille depuis plus de 200 ans. Dans la méthode proposée, il y a une période des fondateurs, continue avec un organe qui, tout comme les fondateurs des États-Unis, est chargé de mettre à jour la méthode. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau système d'exploitation et pas seulement d'une mise à niveau. Nous avons besoin d'un gouvernement stable pour les années 4. Un bon système de gouvernance permet aux gens d'apprécier le travail du gouvernement à leur avantage. L'État doit être considéré comme une entreprise commerciale qui a besoin d'un grand changement avant de faire faillite, et c'est exactement le nouveau système proposé. Comment le système fonctionnera-t-il ? Un système de gouvernement présidentiel, un président élu qui nomme les ministres qui sont nécessaires être des professionnels dans leur domaine, changer le système électoral élection pour le président et la législature chambre du gouvernement, chambre supérieure qui est responsable de l'audit et de l'amélioration du gouvernement. Séparation des pouvoirs, grâce à la séparation des pouvoirs, les conflits d'intérêts être éliminés. Une telle séparation fonctionne généralement très bien dans l'armée, dans le développement de logiciels et plus encore. Cela montre où se situent les problèmes et permet de mettre à niveau une partie du système sans nuire à l'ensemble. Indice de réussite gouvernementale, un indice numérique qui sera publié chaque mois et comprendra des données sur la prospérité des citoyens et de l'État. Les dirigeants seront testés sur les résultats de l'indice de prospérité à la fin de leur mandat. Et cela les fera penser à long terme, comme les PDG qui sont testés sur le profit. Cet indice ne pourra être atteint que par une application nationale qui fédérera tous les services et la communication entre l'administration et les citoyens, sera développée par le ministère du Numérique, la Recherche et le Développement, devront être réalisées par un organisme politiquement indépendant. Comme les tribunaux qui ne sont pas politiquement indépendants. La recherche ne doit pas seulement être théorique mais aussi pratique à travers des expériences sur les colonies avant de mettre en œuvre la méthode à l'échelle nationale. La seule mesure du succès devrait être une mesure de la prospérité des résidents. Avec un système de gouvernance correct, l'avenir du pays ne dépend pas d'un dirigeant ou d'un autre car le système peut être modifié par l'administration comme dans l'armée de l'air. Il existe un système qui fonctionne pour créer des pilotes et le système est constamment mis à jour et modifié. Et la mesure peut apporter des leaders avec une note de 5 étoiles. Un budget important qui sera consacré au développement, à la recherche et à la mise à niveau du système de gouvernance. Malgré l'énorme impact que peut avoir une telle recherche et développement, elle dispose aujourd'hui de 0 budget. Bien entendu, la recherche doit être effectuée par un organisme politiquement indépendant. Comme les tribunaux qui ne sont pas politiquement indépendants. La recherche ne doit pas seulement être théorique mais aussi pratique et soutenue par l'expérimentation et l'apprentissage des leçons avant de mettre en œuvre la méthode à l'échelle nationale. La seule mesure du succès devrait être la mesure de la prospérité des résidents. Qu'est-ce que le profit moyen ? Le principe suivant est important et critique dans une bonne gouvernance, et c'est le « principe du profit moyen pour les citoyens ». Si 50% subissent 10 unités et 50% gagnent 20 unités, les gens profitent en moyenne de 10 unités, regardez toujours le profit moyen pour augmenter la prospérité des résidents. Il est important de regarder le profit moyen car il n'y a pas de loi selon laquelle il n'y a pas de perdant. Si nous considérons s'il faut autoriser un VTT aérien à survoler les colonies, la personne sur le VTT en profite à coup sûr, mais cela cause du bruit et des inconvénients, disons 500 riverains qui sont touchés par la nuisance. Une conclusion simple ici est de ne pas autoriser les quadricoptères aériens à voler partout ou à proximité des colonies et pas non plus sur la plage, tout est une moyenne de profit. Nous vérifierons si cela vaut la peine de suivre les ex-criminels quelques années après qu'ils aient été un public de 8 millions de personnes bénéficiera, disons, de moins de crimes. Et disons 10 000 criminels, ils se sentiront mal à l'aise parce que leur vie privée a été violée, le profit moyen par citoyen ici est extrêmement élevé. Israël est libre, le « bloc de la liberté », pour unir la majorité du peuple dans le camp de la « liberté », aussi longtemps que possible. le pourcentage d'électeurs en faveur du bloc libre est différent des pourcentages dans la population dans son ensemble. Les chiffres en 2023 sont: laïcs 44%, observateurs du Shabbat 24%, haredim 13%, arabes 20%. Supposons que 80% des laïcs, 50% des observateurs du Shabbat, 30% des arabes, 15% des haredim peuvent être ajoutés au bloc liberté. Cela donne 54% dans le meilleur des cas pour déplacer Israël vers la protection de la minorité et un Israël libre. Commencez par la première étape, unissez-vous. Un leader du bloc, liberté. Sans l'unification du « bloc de la liberté », il sera très difficile de protéger les ultra-orthodoxes d'eux-mêmes et en général des groupes minoritaires eux-mêmes. Les actions des groupes minoritaires leur nuisent à long terme. Pendant la période de la guerre froide qui a duré de 1945 à 1991, le terme « monde libre » était généralement utilisé pour désigner le bloc occidental et ses pays associés. Le terme avait une connotation plus large, englobant toutes les démocraties libérales, par opposition aux régimes autoritaires tels que les pays communistes. Les pays alignés sur l'Occident, y compris les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN, étaient les principaux sujets du terme. L'expression « leader du monde libre » était souvent utilisée pour suggérer un leadership symbolique et éthique, en particulier pendant le froid. Guerre, avec le président des États-Unis comme point de référence, mécanisme constitutionnel qui protège la démocratie israélienne. Le problème en Israël n'est pas seulement dans le système juridique, le problème est aussi dans le système éducatif et le système de santé, et la vérité est dans la plupart des systèmes de l'économie. Partout où je regarde, je vois de la négligence et ça fait mal parce que ça s'aggrave au lieu de s'améliorer. Point. En tant qu'Israélien, nous cherchons le coupable et des solutions magiques, mais le coupable n'est pas un être humain, ni les gauchistes ni les droitiers, ni les arabes ni les ultra-orthodoxes. Le coupable est un système de gouvernement. Dans des situations similaires dans le monde, les premiers à échapper à une telle détérioration sont les dirigeants de l'économie, et cela commence aussi par nous, ce n'est pas du bruit, c'est un signal important. Il est très étrange que les gouvernements investissent des milliards de dollars dans des expériences de physique, des infrastructures de recherche médicale, etc. Mais il n'y a presque pas de budget pour la recherche d'un système de gouvernement idéal, qui affecte la vie des habitants plus directement et plus largement qu'une nouvelle technologie dans le domaine de la santé ou la construction d'une nouvelle route. Imaginez que vous deviez gérer votre maison mais avec vos plus grands ennemis à côté de vous toute la journée. C'est ainsi que fonctionne la Knesset aujourd'hui, elle se livre à un jeu de survie qui comprend des votes de défiance, le départ à la retraite d'un député, la menace de retrait des petits partis et ne gère pas l'économie à 100% comme le voudraient les citoyens. Le résultat d'un bon système de gouvernance est la sélection de dirigeants et d'un leadership de qualité, comme une notation 5 étoiles, qui sont prêts à changer d'avis quand il y a de nouveaux faits, flexibles dans leur pensée et pensent comme des scientifiques, selon les faits et d'informations et non selon l'émotion, ainsi que des dirigeants qui font réellement ce qu'ils promettent. Point. Aujourd'hui, le niveau moyen des gouvernants est très bas, une note de seulement 2 étoiles. La « méthode de management » et le « management » doivent être changés d'un pas courageux, comme on dit, et une heure plus tôt c'est bien. Depuis le jour de sa fondation jusqu'à aujourd'hui, Israël est en état d'urgence chronique selon les autorités gouvernementales, de nombreuses actions inappropriées ont été menées depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui et elles n'ont pas jugé opportun de corriger cette situation, c'est ce que dit Darshani. La scène, ou par son nom abrégé, je suis sur une scène, pour comprendre ce qu'un bon système de gouvernance doit empêcher. À quoi ressemble un système de gouvernance? Le ministère numérique, le ministère le plus important au monde. Le rôle du ministère est pour optimiser les services numériques pour les citoyens. Le ministère du numérique dirige la société gouvernementale Rafad et comme Rafa, uniquement dans le domaine du numérique, l'autorité de développement des moyens numériques. Raphaël a contribué à la sécurité du pays et exactement de la même manière le ministère du numérique contribuera à l'optimisation de l'ensemble des processus du pays. Il existe aujourd'hui un énorme fossé de numérisation entre le monde privé et le monde public, services en ligne, candidatures, sites internet, paiement en ligne, remplissage de documents, demandes, etc. Chaque personne possède un téléphone mobile, ce qui n'était pas le cas à l'ère de l'informatique, et il existe donc un moyen simple d'optimiser toutes les activités de l'État, à savoir la numérisation complète de l'ensemble de l'économie. Façon dont les décisions sont prises, Les décisions basées sur l'émotion et la politique seront abandonnées au profit de décisions basées sur la data. L'application nationale. Le développement d'une application nationale peut améliorer considérablement la relation entre le gouvernement et ses citoyens. En centralisant divers services et fonctions, les gouvernements peuvent rationaliser les processus, accroître l'efficacité et améliorer la satisfaction globale des citoyens. Voici quelques exemples tirés du monde entier. Estonie. La petite nation balte d'Estonie a mis en place un système de gouvernement connu sous le nom de Estonie. Ce système comprend une carte d'identité numérique sécurisée, qui permet aux citoyens d'accéder à divers services gouvernementaux, tels que le vote, la déclaration de revenus et l'accès aux dossiers de santé, le tout via une seule plateforme. Qui permet aux citoyens d'accéder à plus de 1000 services gouvernementaux via une connexion unique et sécurisée. Grâce à SingPass, les citoyens peuvent facilement communiquer avec les agences gouvernementales, participer aux votes locaux et nationaux et effectuer diverses transactions personnelles et professionnelles. Inde. Le programme indien à Aadhaar fournit des numéros d'identification uniques à tous ses résidents. Aadhaar sert de plateforme d'identité numérique, permettant aux citoyens d'accéder aux services gouvernementaux, d'ouvrir des comptes bancaires et de recevoir des subventions. La plateforme simplifie les processus tels que la déclaration de revenus et la distribution de l'aide sociale, conduisant à un système plus efficace et transparent. En s'inspirant de ces exemples, une application nationale pourrait offrir les fonctionnalités suivantes : identification nationale unifiée, un système d'identification unique, tel que l'identité numérique de l'Estonie ou Aadhaar de l'Inde, qui vérifie les citoyens ou les entreprises dans divers services gouvernementaux. Amélioration de la communication. Une plateforme similaire à l'application SingPass de Singapour qui permet une communication transparente entre les citoyens et les organismes gouvernementaux. Vote et référendum. Les votes locaux et nationaux, ainsi que les référendums, peuvent être effectués en toute sécurité et efficacement à l'aide de l'application nationale. Déclaration et dépôt d'impôts. L'application peut permettre une déclaration et un dépôt d'impôts sur le revenu facile et sécurisé, tout en rationalisant le processus pour les citoyens et le gouvernement. L'indice de prospérité des citoyens. L'application nationale peut collecter des données pour enquêtes et autres indices, aidant le gouvernement à évaluer et à améliorer le bien-être des citoyens. Paiement. L'application peut faciliter des paiements sûrs et efficaces entre le gouvernement et les citoyens, y compris les subventions, les remboursements d'impôts et d'autres transactions. Unification de tous les Juifs dans le monde pour permettre aux Juifs hors d'Israël de figurer dans la demande nationale sous la rubrique « Juifs non résidents ». Leur permettre de voter sur certaines questions. Cette possibilité se traduira par l'unification de tous les Juifs du monde. Cela renforce le lien direct d'Israël avec la diaspora, entraînera une augmentation ainsi qu'un lien direct entre tous les Juifs du monde. Israël saura également combien de Juifs il y a dans chaque pays du monde, si nécessaire nous pourrons les activer. Une telle application a un pouvoir énorme lorsqu'elle émane de l'État et non d'une entreprise privée. Bien sûr, l'État n'a pas besoin de développer une telle application, mais plutôt de la mettre en concurrence. Le ministère du numérique est le surhomme du gouvernement. De toutes les institutions gouvernementales, un domaine dans lequel elles sont actuellement en retard. Le bureau doit être dirigé par un PDG ayant une expérience avérée des éditeurs de logiciels performants sur le marché. Les activités du bureau numérique doivent inclure la gestion de projets gouvernementaux à la fois par eux-mêmes et par le biais de l'externalisation, ainsi que la coopération avec des sociétés commerciales dans des projets de bureaux. Par exemple, les banques peuvent se connecter à un système d'identification nationale, économisant ainsi des ressources lors de l'ouverture de nouveaux comptes. Cette coopération permettra de construire une infrastructure permettant aux entreprises commerciales de se connecter au système national de commerce électronique et d'offrir des services aux entreprises et aux citoyens. L'accent doit être mis sur la préservation et le partage de l'information pour favoriser la confiance entre les dirigeants et les citoyens. De plus, le ministère doit viser l'excellence du service, en mesurant la performance et la satisfaction des citoyens au moyen d'enquêtes simples et conviviales. Après chaque projet, un rapport de suivi doit être établi avec des suggestions d'amélioration et d'optimisation. Des leçons doivent être tirées des succès, des erreurs et des pratiques globales pour assurer une amélioration constante. Le ministère du numérique recrutera des professionnels du logiciel et des chefs de produits pour superviser la numérisation de toutes les institutions gouvernementales, telles que la sécurité sociale, le ministère de la santé et le ministère des transports, sites web, applications, documents numériques. Cette approche aidera à résoudre le problème de l'embauche de responsables de logiciels et de produits adaptés pour le secteur public. Chaque bureau du gouvernement devrait avoir un responsable du code et une équipe numérique qui se concentre exclusivement sur les employés du bureau. Bien que le bureau numérique construise les systèmes technologiques, chaque bureau doit conserver une certaine autonomie en matière d'expansion et de gestion. Par exemple, le ministère du Logement peut employer des programmeurs et des graphistes pour développer un système en ligne d'achat et de vente de terrain basé sur l'infrastructure du bureau numérique. Lorsqu'une équipe du bureau numérique est stationnée au ministère du Logement pour opérer, il serait avantageux d'unifier les infrastructures de tous les systèmes économiques dans un système national, car elles partagent de nombreuses similitudes, telles que l'identification, la compensation des paiements, les bases de données, le service client, les cartes, les interfaces utilisateurs, les alertes, les sites de gestion, les calculateurs, achats, mesures et statistiques. Cette approche encouragera les jeunes talents à rejoindre les rangs du ministère numérique en offrant des opportunités de service à ceux qui cherchent actuellement à s'enrôler dans l'armée. En mettant l'accent sur l'importance de cette initiative, le gouvernement peut attirer une main-d'œuvre infuse et qualifiée. En plus de ces stratégies, il est essentiel d'établir des régimes de rémunération compétitifs qui reflètent les standards du marché de la haute technologie. En offrant des salaires comparables à ceux du secteur privé, le gouvernement peut s'assurer qu'il attire et retient les meilleurs talents disponibles pour le bureau numérique, contribuant ainsi au succès de ce nouveau secteur de gouvernement. Chaque secteur de l'administration en développant des fonctionnalités sur mesure via une application nationale ou des applications distinctes pour les différents bureaux. Tout comme les ordinateurs rationaliseront les affaires, le bureau numérique devrait rationaliser le gouvernement. C'est ainsi que le bureau numérique améliorera les domaines suivants. Éducation. Le bureau numérique mesurera la satisfaction afin d'améliorer constamment le système. Un système similaire à Chatbot GPT peut être utilisé pour répondre aux questions sur les règles et réglementations. Bien-être et égalité. Le ministère mettra en œuvre des solutions numériques pour améliorer les services sociaux et promouvoir l'égalité d'accès aux opportunités et aux ressources. Sécurité intérieure. Le ministère numérique améliorera la sécurité intérieure grâce à une meilleure coordination entre les agences et un partage et une analyse des données plus efficaces collectivités locales. Grâce à la numérisation des processus, le bureau permettra aux autorités locales d'offrir des services améliorés, d'améliorer la communication avec les citoyens et de prendre des décisions plus éclairées. Logement. Le bureau numérique permettra de rationaliser le secteur du logement en fournissant des plateformes en ligne pour acheter et vendre des terrains et en améliorant l'accessibilité aux informations et services connexes pour le logement. Dans votre livre, il est déjà écrit, dans le crime de terre, il y a beaucoup de ministres. Tout comme dans les sociétés commerciales avec peu de vice-présidents, même dans un régime progressiste, les ministres devaient être choisis par motif professionnel et non pour satisfaire un certain groupe. Les gouvernements à l'époque de la Bible étaient petits. Dans le gouvernement du roi Saül, il n'y avait qu'un seul ministre, le ministre de l'armée. 1 Samuel 14h50. Dans le gouvernement du roi David, il y avait 8 ministres, 2 Samuel 23-26. Dans le gouvernement du roi Salomon, il y avait 11 ministres, 1 Roi 42-6. 127 pays, il n'y avait que 7 ministres, Esther à 14. Affaires intérieures. L'activité du ministère de l'Intérieur est très importante pour l'efficacité du travail de l'économie, et le ministère devrait constamment améliorer ses mécanismes et recevoir des informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et investir dans ce qui fonctionne. Il est possible de faire un énorme changement dans les activités du ministère, en investissant de l'énergie dans une immigration intelligente, dans un système d'identification nationale, dans des licences commerciales pratiques et en donnant du pouvoir et des bonus aux autorités locales. L'histoire montre qu'une immigration intelligente peut changer la face du pays. Des personnes ayant des qualités et des opinions différentes viennent dans le pays et le développent, tout comme les immigrants aux États-Unis, parmi lesquels Elon Musk qui est venu d'Afrique du Sud et les fondateurs de Google qui sont venus de Russie. Si cela vous semble étrange, cela peut être comparé à des joueurs de renfort qui viennent de l'étranger pour rejoindre des équipes de football et de basketball en Israël et y deviennent citoyens. Changement clé en matière interne. Numérisation. Numérisation complète du ministère de l'Intérieur afin de comprendre comment combien il en coûte, en temps et en argent, pour recevoir un service spécifique du ministère de l'Intérieur tel que l'ouverture d'une entreprise, la demande d'un permis de travail, etc. Annulation de tous les documents physiques, permis de conduire, carte d'identité, etc. Un système national d'identification, Cela améliorera la concurrence entre les banques car il sera facile pour les particuliers d'ouvrir de nouveaux comptes bancaires et de s'identifier auprès des entreprises et de l'État. Diriger l'entreprise. La méthode souhaitée consiste à faire confiance aux propriétaires d'entreprises qui remplissent toutes les conditions de licence et à les laisser fonctionner, mais s'ils ne remplissent pas les conditions de licence, fermer l'entreprise et imposer de lourdes sanctions. Il est suggéré de le faire uniquement pour les entreprises qui ne sont pas très grandes et dont l'ouverture ne met pas en danger la vie des civils. En conclusion, permettre aux entreprises de commencer à travailler immédiatement et appliquer la loi et punir en fonction de celle-ci si nécessaire autorités locales, mesurer et recevoir des budgets en fonction du bien-être des résidents. Chaque autorité locale a ses propres affaires, il est donc important de lui donner un grand pouvoir et une gouvernance dans les questions locales telles que les amendes, les inspecteurs et l'impôt foncier. Immigration intelligente en Israël. Gens ont peur des immigrants, mais l'histoire montre que des choses merveilleuses arrivent au pays à tous les niveaux. Ils visent une immigration intelligente et bonne. Les bons immigrants ont construit les pays les plus avancés du monde, y compris les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande, et de ce fait, nous pouvons apprendre beaucoup. Les immigrants construisent aux États-Unis et contribuent à elles dans une mesure incroyable. Un seuil d'immigration intelligent pour les personnes exerçant des professions nécessaires telles que les médecins, les ingénieurs, les chercheurs, les enseignants et les investisseurs. Comme Herzl l'a écrit à propos de l'immigration dans son livre Altnewland, ceux qui nous rejoignent à un stade relativement tardif n'appauvrissent pas le pays, mais l'enrichissent plutôt. Plus il y aura de travailleurs ici, plus on trouvera de pain ici, à condition que l'ordre social soit comme le nôtre. La justice est la justice libre. Qui a besoin de justice? Le sens de la justice dans tous les aspects de la vie sur Terre est reconnu depuis les temps anciens. La réflexion sur le système juridique et les améliorations qui peuvent y être apportées, grâce aux progrès intellectuels, juridiques et technologiques que nous avons réalisés aujourd'hui, est essentielle. Non seulement la justice dissuade le crime, mais elle garantit également une évaluation correcte des preuves et un traitement équitable de l'accusé. Le système judiciaire est l'un des systèmes les plus cruciaux de tous les pays, jouant un rôle vital dans diverses industries. Comme Nelson Mandela l'a dit un jour, refuser aux gens leurs droits humains, c'est défier leur humanité même. La justice affecte notre sécurité intérieure ainsi que nos aspects personnels, économiques et de santé, touchant presque tous les domaines de notre vie. En faisant respecter la loi et en assurant l'équité dans les relations entre les personnes, le système judiciaire encourage les gens à adhérer à l'état de droit. Martin Luther King Jr. a souligné cela et a déclaré « L'injustice n'importe où est une menace pour la justice partout. La tendance humaine innée est d'affronter et de s'engager dans des conflits, cependant, lorsqu'il y a un corps intellectuel qui fonctionne bien pour résoudre les différends, cela réduit intrinsèquement la violence et la droiture dans la société. » Le Mahatma Gandhi croyait au pouvoir de la non-violence et a souligné l'importance de la justice en disant « Œil pour œil seulement rend le monde entier aveugle. » À ce titre, il est essentiel que la société reconnaisse la valeur d'un système juridique juste et équitable qui peut s'adapter aux besoins changeants de l'époque tout en préservant les principes fondamentaux d'équité et de droit de l'homme. Au rythme des changements technologiques. Les procès se déroulent traditionnellement en personne, les témoins témoignant devant le tribunal et les jurés délibérant en personne. Cependant, l'essor d'Internet et de la vidéoconférence a permis de mener des procès en ligne, avec des témoins témoignant à distance et des jurés délibérant en ligne. Les procès en ligne présentent plusieurs avantages par rapport aux procès traditionnels. Ils sont plus efficaces, car ils peuvent être menés sans que tout le monde ait besoin de se rendre à un emplacement central. Ils sont également plus pratiques, car ils peuvent être effectués à toute heure du jour ou de la nuit. Et ils sont plus accessibles, car ils peuvent être menés par des personnes vivant dans des régions éloignées ou en situation de handicap. Cependant, il y a aussi des défis associés aux essais en ligne. Ils peuvent être moins personnels, car il peut être difficile d'établir une relation avec les témoins et les jurés lorsqu'ils ne sont pas dans la même pièce. Ils peuvent également être moins sécurisés, car il existe un risque de piratage ou d'autres perturbations. Malgré les défis, les procès en ligne sont l'avenir du système judiciaire. Ils sont plus efficaces, pratiques et accessibles que les expériences traditionnelles. Et ils sont le meilleur moyen de garantir que justice soit rendue en temps opportun et de manière équitable. Voici quelques exemples de la manière dont les procès en ligne sont utilisés dans différentes parties du monde. Astérisque aux États-Unis, l'État de l'Arizona a mené des procès en ligne essais depuis 2011. L'État a indiqué que les essais en ligne permettaient d'économiser du temps et de l'argent et qu'ils étaient tout aussi efficaces que les expériences traditionnelles. Astérisque au Royaume-Uni, le ministère de la Justice expérimente des procès en ligne depuis 2015. Le ministère a indiqué que les essais en ligne ont été bien accueillis par les participants et qu'ils ont le potentiel d'économiser de l'argent et du temps. Astérisque en Australie, l'État de la Nouvelle-Galles du Sud mène des essais en ligne depuis 2017. L'État a indiqué que les essais en ligne avaient réussi à réduire le temps nécessaire pour résoudre les cas et qu'ils avaient été bien accueillis par les participants. Encore à ses débuts, mais il est clair qu'ils ont le potentiel de révolutionner le système. Le procès, ils sont plus efficaces, pratiques et accessibles que les expériences traditionnelles. Et ils sont le meilleur moyen de s'assurer que la justice est rendue en temps opportun et de manière équitable. Comment construire un système judiciaire? Le système judiciaire est à l'origine de la prospérité des citoyens, c'est-à-dire nous, c'est donc un facteur essentiel d'une bonne gouvernance. La prospérité des habitants est tout ce qui fait qu'un citoyen est satisfait de la vie, entre autres de quitter la maison et de voir vert. L'espoir est une partie importante de la prospérité. Avant d'y toucher, le système judiciaire doit d'abord disposer d'un paramètre que tout le monde connaît et l'améliorer à mon avis, la durée moyenne du procès, et, en plus, la satisfaction des parties quant au résultat du procès ou règlement. S'il n'y a pas de paramètre d'amélioration, alors tout le monde joue et vit d'émotions et de reportages médiatiques comme l'ancienne économie et pas aussi désirable de travailler pour une amélioration constante comme Tesla ou Google. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant, mais dans le cadre du « judiciaire », et non en tant qu'autorité législative. En Israël, les pouvoirs législatifs et exécutifs sont mixtes et en plus il n'y a pas d'autorité, de recours. Je l'appelle « la maison du gouvernement ». Le pouvoir judiciaire est contraint de « légiférer », car, comme on l'a dit, il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs « exécutifs » et « législatifs ». De plus, une constitution protège les citoyens des autorités et lorsqu'il n'y a pas de constitution, cela crée plus de complications. Israël ne peut pas être pleinement démocratique parce qu'il y a des contraintes de la part des Juifs et du « reste ». Si le « reste » nous contrôle, nous ne serons probablement pas ici en tant que peuple libre. En bout de ligne, le système juridique doit être modifié de bout en bout pour les bonnes raisons. Tous les changements doivent s'appliquer au prochain mandat pour éviter un conflit d'intérêts, par une sorte de « chef de projet ». Bien sûr, le système judiciaire doit subir des changements par la « chambre du gouvernement », et non par une partie infectée, le « gouvernement ». Il n'y a pas de « maison du gouvernement » aujourd'hui, donc personne n'a mandat pour changer le système ou l'une des autorités. Une semaine d'épreuves fera prospérer les habitants, c'est possible. Il faut d'abord l'imaginer et ensuite le mettre en œuvre. Un changement fondamental du système est important à comprendre. Une révolution est nécessaire dans le système judiciaire en Israël et dans l'administration de la justice, et elle ne sera possible que si la personne qui se tient à la tête de la justice sait utiliser la technologie et peut reconstruire la justice. Un procès court et efficace axé sur la justice, la rapidité et la commodité du procès, dans la nature des juges et la justice préventive par la mesure et l'amélioration constante. Les éléments de l'indice de justice devraient être: y a-t-il eu un procès équitable? Combien de temps a-t-il duré? Combien de temps l'ont-ils attendu et quel en a été le coût pour chacune des parties et pour l'État? Et combien de procès dans différents domaines ont été cessés d'utiliser un tribunal comme législateur, constitué une sorte de loi? Les jugements doivent être convertis en loi et non fondés sur des jugements car le tribunal n'est pas censé être un législateur. Si le tribunal rencontre un problème, qu'il le renvoie au législateur. Un nouveau mécanisme doit être développé afin que les lois peu claires soient renvoyées au législateur et ne soient pas fondées sur des décisions de justice. Ce système a causé des problèmes à la Cour suprême en Israël. Un organe dédié au sein du système judiciaire qui pousse à combler les lacunes de la loi et à amender les lois peu claires, l'organe veillera à ce que l'autorité législative, la Chambre des représentants, la Knesset, veillera à ce qu'une législation peu claire soit modifiée et que de nombreux procès soient intentés. Un exemple d'une telle loi qu'un organisme civil pousse à ne pas avoir peur de la technologie, à utiliser n'importe quelle technologie qui peut promouvoir la justice, vidéo, téléphone portable, surveillance volontaire, une base de données documentaire nationale, et plus encore. Tout ce qui favorise la justice et la commodité pour les justiciables à promouvoir. Le conservatisme est l'ennemi du droit. Mesuré pour améliorer, mesurer ce que vous voulez améliorer. Y a-t-il eu un procès équitable? Combien de temps a duré le procès? Combien de temps l'ont-ils attendu et combien a coûté le procès aux parties et aux indiqués? Combien d'essais de différents domaines étaient là? Retour d'informations sur le degré de peine dans tous les domaines juridiques à remplir par les juges, les accusés, les procureurs, les avocats, les témoins, le degré de peine doit-il être augmenté ou abaissé en fonction de la récurrence répétée des crimes contre la sévérité de la peine? Prévenir les conflits à l'avance, se concentrer sur la justice préventive, c'est-à-dire mesurer où les conflits surviennent et les prévenir à l'avance grâce à des systèmes réglementaires et technologiques, tels que la gestion des signatures, le système des contrats, le système de négociation immobilière, qui seront développés et exploités par des entreprises privées qui seront sélectionnées dans le cadre d'appels d'offres publiques. Le but ultime est plus de justice en moins de procès et en moins de temps. Une constitution afin d'établir une constitution pour Israël, le tribunal ne devrait pas promulguer des lois à la place de l'autorité législative, mais seulement s'assurer que les lois ne sont pas violées et assurer leur mise en œuvre. Dans les situations où il n'y a pas de loi, le tribunal doit renvoyer l'affaire au législateur. Loi 2.0, une loi numérique selon laquelle le citoyen pourra envoyer des requêtes en ligne et en langue vernaculaire. Par exemple, est-il permis de faire du bruit après 5 heures du soir? Oui. Un essai peut prendre une semaine, ce qui ramène le temps d'un essai de plusieurs années à plusieurs semaines. En modifiant le déroulement de l'essai et en l'adaptant à la technologie qui existe aujourd'hui, si possible, convocation à un procès via un système national d'identification. Il sera très difficile de décliner sa responsabilité et facile de convoquer des témoins et des accusés. Passer à un procès en ligne, par exemple dans un procès pour viol, qui peut être enregistré à domicile ou dans des lieux autorisés. Chaque commissariat peut disposer d'une salle pour témoigner. Dans un procès de cette manière, les témoins n'auront pas peur de se tenir devant l'accusé lors du procès. Transfert de preuves en ligne, si les parties sont d'accord. S'il y a une objection à la preuve, elle sera délivrée sous forme physique, et si la preuve est acceptée, la partie qui s'y oppose paiera une amende. Arrêter la procédure d'appel, rendre difficile l'appel devant le tribunal. Aujourd'hui, il y a une facilité illogique dans l'appel, tout le monde fait appel et les sanctions changent. Un appel devrait être autorisé, mais pas facilement. Les prévenus répètent que bien que le rôle de la police soit d'empêcher la récidive des criminels, le tribunal devrait être un auditeur supplémentaire du processus. Les accusés récidivistes devraient recevoir un traitement complètement différent ainsi que des peines différentes si l'on reprit leur mauvaise voie. Un noble objectif de la Cour est que les criminels ne récidivent pas leurs crimes, s'efforcer de sortir les prévenus du cycle de la délinquance avec des peines lourdes ou une réinsertion de qualité dans un système d'accompagnement à la reconversion. À cela s'ajoute l'utilisation de moyens technologiques tels que la surveillance constante jusqu'à la levée des restrictions. Les bons juges amènent les bons juges. Le ministre de la Justice doit venir du domaine du droit et de la haute technologie pour mener à bien la révolution dans le domaine. Une mesure claire de la qualité du juge, la satisfaction de l'avocat du défendeur et de l'avocat du demandeur dans le procès et l'évaluation du juge par d'autres juges. Un bon gestionnaire placé à la tête du système judiciaire peut rendre la révolution nécessaire, il est donc important de choisir la bonne équipe pour diriger le système et coordonner les améliorations et changements nécessaires. La méthode d'élection des juges doit être vérifiée régulièrement, apporte-t-elle de bons juges du passé? Le bien-être et l'égalité et l'amour du prochain en tant que médiateur professionnel qui fera une révolution. Il y a une énorme différence entre un théoricien et un homme d'action, et vous ne pouvez pas savoir qui est un bon manager jusqu'à ce que vous le voyez gérer, tout comme vous ne pouvez pas savoir qui sera un bon combattant jusqu'à ce que vous ne le voyez pas se battre. Condition d'un état-providence, le ministre du bien-être sera professionnel, exercera ses fonctions pendant au moins 4 ans et fera la révolution du bien-être, il doit avoir une formation managériale du secteur privé, afin qu'il puisse apporter les méthodes du secteur privé-secteur. Bien sûr, la révolution sera une mesure. C'est d'ailleurs la maladie des institutions académiques, les professeurs et les doyens ne géraient souvent rien eux-mêmes mais seulement la recherche. Dans l'académie, j'ai vu cela se produire avec un doyen de la faculté d'éducation qui, au lieu de gérer sa secrétaire pour produire un événement qui aurait coûté 50 000 shekels, elle a engagé une entreprise extérieure et le gaspillage excessif a atteint les 400 000 shekels. Que me donne un état-providence? Une veuve et un orphelin ne seront pas affligés. Si elle répond, elle lui répond parce que si un cri crie vers moi, j'entendrai son cri. Cette phrase vaut aussi pour notre temps, car pour être bon, il faut être bon avec les faibles. Cela semble un peu étrange, mais la société se mesure à son attitude envers les faibles, si nous ne prenons pas soin d'eux, le pays ne fonctionnera pas car ce sera un groupe très amer. Un groupe amer essaie de venger son amertume avec la justice, il est facile de le rassembler même avec un complot sanglant comme « les capitalistes profitent de vous », ou comme en Allemagne, « les juifs sont responsables de votre situation », et comme en Iran aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec les Arabes en Israël ainsi qu'avec d'autres populations défavorisées. En fin de compte, ce n'est pas seulement un commandement de prendre soin des faibles sans distinction de religion, de nationalité, de race ou de sexe, mais cela aide également ceux qui ne sont pas faibles, aide à long terme. Droit à l'égalité. L'égalité est une valeur centrale pour toute société démocratique. La nécessité d'assurer l'égalité est naturelle à l'homme. Elle est fondée sur des considérations de justice et d'équité. La nécessité de maintenir l'égalité est essentielle à la société et au accord sur lequel elle est bâtie. En effet, il n'y a pas de facteur plus destructeur pour la société que le sentiment de ses fils et filles traités partout. Le sentiment d'inégalité est l'un des sentiments les plus difficiles. Il blesse les pouvoirs qui unissent l'entreprise. Cela nuit à l'identité d'une personne. Comme Herzl l'a écrit dans son livre Altnewland, « Ne pensez-vous pas, Monsieur Kingscourt, que les gens seraient mieux lotis si leur situation était meilleure ?» D'une manière plus équitable, de sorte que cela donnera un plus grand rendement à tout le monde, et peut-être même l'augmentera-t-il. La seule façon d'y parvenir est une combinaison du capitalisme et d'un degré élevé de bien-être avec une direction du secteur privé dans la bonne direction, par exemple le développement d'une infrastructure pour le commerce électronique à travers un réseau de distribution nationale, et c'est une combinaison qui ne peut être réalisée que si les dirigeants sont bons pour le peuple à long terme, et ces dirigeants le seront lorsque le système de gouvernement sera mis en place le nouveau vérifier la qualité de vie de chacun pour s'améliorer, mesurer l'amélioration et déterminer où cela s'est produit. Sans mesure, il est très difficile de s'améliorer, d'autant que la personne heureuse se construit sur des retours d'expérience à corriger. Retour d'information dans le but d'améliorer, de rationaliser ou d'abroger les lois et règlements. L'éducation est le facteur le plus important pour l'égalité des chances et le bien-être des habitants, il convient donc de s'y concentrer. L'objectif de l'État est que le gâteau soit partagé plus équitablement par une éducation appropriée pour les plus faibles et des aides de l'État pour ceux qui ne peuvent pas travailler, pour un meilleur partage des bénéfices des entreprises entre leurs propriétaires, leurs employés et les citoyens qui ont besoin d'argent. Seul l'État peut changer cet équilibre. Observer la fine frontière entre « ne peut pas » et « ne veut pas » pour les citoyens dans le besoin. Le capitalisme fonctionne mais ne contredit pas un État-providence, au contraire, il y a une belle idée pour le socialisme, mais cela ne correspond pas au caractère de l'homme moderne qui est élevé à penser à lui-même devant le groupe. Du socialisme, il suffit de retirer l'aspiration à l'égalité, notamment l'égalité des chances et un coussin de sécurité dans 6 matières, drogue et alcool, nutrition, logement, alimentation, éducation et santé. Les drogues et l'alcool sont sur la liste parce qu'ils sont tout aussi importants que le reste, ils détruisent un État-providence et causent des inégalités. Les drogues sont les ennemis d'un État-providence, la plupart des problèmes de bien-être sont directement ou indirectement liés à la drogue et à l'alcool, vous devez pour s'attaquer au problème et ne pas traiter les symptômes, dont certains incluent la maltraitance des enfants, le viol, la violence domestique, la prostitution et d'autres symptômes de dépendance. Et aujourd'hui, tout le monde a tort et traite les symptômes et non le problème, et les symptômes sont sans fin. Et le problème n'est pas explicatif. Le problème est une main facile pour les distributeurs et la négligence des toxicomanes. Il est possible de traiter le problème, il y a un exemple de cela à Singapour et dans plusieurs autres pays, vous voyez que de lourdes sanctions contribuent à l'éradication des drogues dans la société. Ceci, ainsi que de fortes valeurs culturelles et la stigmatisation sociale entourant la consommation de drogues, contribuent à de faibles taux de consommation. Singapour est connu pour ses lois sévères sur les drogues, y compris la peine de mort pour trafic de drogue. Cette politique stricte, associée à un niveau élevé de désapprobation sociale et à de fortes valeurs familiales, conduit à une faible consommation de drogue. Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a une politique stricte en matière de drogue et des sanctions sévères pour les infractions liées à la drogue. En outre, la culture conservatrice du pays et les valeurs religieuses peuvent contribuer à une faible consommation de drogue. Islande. L'Islande a connu une diminution significative de la consommation de drogue chez ses jeunes en raison d'une combinaison de facteurs, notamment de solides programmes sociaux, la participation des parents et des activités récréatives parrainées par le gouvernement. Corée du Sud. La faible consommation de drogue en Corée du Sud peut être attribuée à des lois strictes sur la drogue, à un fort accent sur l'éducation et à des normes culturelles qui découragent la consommation de drogue. Vous pouvez être frustré par cela à un niveau probabiliste. N'y a-t-il aucun moyen d'empêcher les toxicomanes de continuer à frapper la société? Évidemment, il y a un moyen, il suffit de le trouver. Lorsqu'une personne est au milieu de la drogue et de l'alcool, rien ne peut l'aider à part le nettoyer. L'État doit marquer les alcooliques et les toxicomanes pour qu'ils puissent savoir quelles méthodes ont réussi à les sortir de la dépendance, sinon tous les services sociaux ne les aideront pas. Marquer une personne comme toxicomane peut changer après une période d'abstinence. Ce marquage peut aider à déchiffrer les crimes et en général comme une menace pour le toxicomane. Étant donné qu'il existe une demande nationale d'identification, l'État peut savoir où traînent les toxicomanes. Il s'agit en effet d'une violation grave de leur vie privée, mais c'est le moindre de leurs problèmes. Nous devons aller de la fin au début ici, il n'y aura presque pas de toxicomanes et d'alcooliques en Israël, et maintenant nous devons le mettre en œuvre. Au lieu d'une prison, fournir des tests quotidiens et être payé pour eux. Utiliser la prison comme une menace pour se débarrasser de la drogue et de l'alcool. En même temps, donner des substituts de drogue et de l'alcool. Il y a sûrement un moyen de faire en sorte que les gens ne deviennent pas des zombies. Une grande partie du budget de l'aide sociale est allouée aux problèmes causés par la consommation de drogue qui cause des problèmes mentaux. Traitement dans des centres de traitement des addictions et bien sûr suivi constant et tests urgents, bien sûr ceux qui ne s'y conforment pas peuvent faire l'objet de restrictions. On devrait envisager pour ceux qui n'ont rien travaillé de penser à distribuer de l'alcool dans des endroits protégés, où ils peuvent causer des dommages à l'environnement. En conclusion, il est possible de réduire considérablement les dommages inimaginables que les drogues font à la société en punissant lourdement les d'une part, une information poussée et une propreté sans concession des toxicomanes par le balisage et une forte autorité de lutte contre la drogue et l'alcool. L'éducation est le meilleur ami d'un État-providence. Le seul moyen de réduire les disparités passe par l'éducation et la gratuité scolaire en particulier, il n'y a pas d'autre moyen. Garantir l'égalité d'accès à une éducation de qualité est essentiel pour le développement social et économique. En Finlande, l'éducation est considérée comme une priorité et le gouvernement propose une éducation gratuite et de qualité, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Le système éducatif finlandais est connu pour son accent sur l'égalité, le professionnalisme des enseignants et l'apprentissage individualisé. Cette approche a conduit à des scores constamment élevés dans les évaluations internationales telles que PISA, ce qui démontre l'efficacité de leurs politiques éducatives pour favoriser la cohésion sociale et réduire les disparités. Sans mesure, il n'y a pas de retour d'information, et sans retour d'information, il est impossible de s'améliorer. La bonne façon de mesurer est probablement par le biais des services sociaux ainsi que dans l'application nationale en signalant soi-même lorsque l'utilisateur manque de nourriture. Le gros problème des couches faibles est qu'elles se nourrissent d'une alimentation qui cause de graves problèmes de santé, et donc la population faible souffre également de plus de problèmes de santé et d'une espérance de vie plus faible que le reste de la population. C'est résoluble, mais nous devons pousser une alimentation gratuite en réglementant et en interdisant la vente d'aliments toxiques dans les rayons normaux du supermarché, uniquement dans la section « poison » du supermarché. Ainsi, il y aura peu de honte pour ceux qui veulent acheter des aliments qui les empoisonnent, lui et sa famille. Assurer une nutrition adéquate et la sécurité alimentaire est une priorité dans les pays socialement conscients, de préférence une alimentation gratuite. Au Brésil, par exemple, le gouvernement a mis en place le programme Fome Zero, qui vise à éradiquer la faim et la malnutrition. Le programme comprend diverses initiatives, telles que Bolsa Familia, qui fournit une aide financière aux familles à faible revenu à condition que leurs enfants fréquentent l'école et soient vaccinés. En outre, des programmes d'alimentation scolaire ont été introduits pour fournir des repas nutritifs aux élèves, contribuant ainsi à améliorer à la fois leur santé et leurs résultats scolaires. Logement en logement libre pensée, vous pouvez lire ici en logement libre l'État devrait mesurer le niveau de logement pour chaque résident, veiller au logement minimum. Vous avez besoin d'une image de situation à jour pour qui le logement n'est pas adapté. La difficulté d'empêcher l'exploitation du système de protection sociale, la base d'une personne est le logement et la nourriture. L'État doit prendre en charge le minimum qui sera défini par la loi comme un toit. Répondre aux besoins de logements abordables et sûrs est essentiel pour promouvoir le bien-être social. À Singapour, le gouvernement a créé le Conseil du logement et du développement, HDB, pour fournir des logements sociaux à la majorité de ses citoyens. Les appartements HDB sont à un prix raisonnable, avec diverses subventions aux logements disponibles pour aider les ménages à faible revenu. Grâce à ces efforts, Singapour a atteint l'un des taux d'accession à la propriété les plus élevés au monde, contribuant à la stabilité sociale et à la mobilité économique. La santé du pays doit prendre soin de la santé de tous les résidents, notamment grâce à la santé gratuite. Les gens ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes à cause de la multitude de fausses publicités et opinions avec lesquelles nous sommes nés. Le peuple est libre sur le long terme et l'État doit intervenir et le faire réfléchir sur le long terme. Fournir des services de santé accessibles et complets est essentiel pour un pays socialement responsable, mais ce qui est important, c'est un mode de vie et une alimentation saine mille fois plus que des services de santé qui n'en ont guère besoin si vous vivez une vie saine et une alimentation adaptée. Au Canada, le gouvernement a mis en place un système de soins de santé universel connu sous le nom d'assurance maladie. Ce système financé par l'État garantit que tous les citoyens canadiens et résidents permanents ont accès aux services médicalement nécessaires, quelle que soit leur capacité de payer. Le système de soins de santé canadien est souvent cité comme un exemple de soins de santé financés par l'État réussi, entraînant de meilleurs résultats en matière de santé et une espérance de vie plus élevée pour ses citoyens par rapport aux pays où les soins de santé sont moins complets. Fait. Un impôt progressif est souhaitable afin qu'il y ait un budget important pour l'éducation et l'aide aux couches les plus faibles de la société. C'est possible, il suffit de le pousser sans compromis. Le problème avec la fiscalité en Israël est qu'elle n'utilise pas la nouvelle technologie et calcule tout, y compris les factures, les paiements, la monnaie numérique et la gestion des comptes nationaux. La fiscalité des successions par exemple fait défaut en Israël, il n'y a pas de justice et de logique qu'un héritage d'un milliard de shekels n'a aucune taxe. Obtenez des commentaires quantitatifs pour améliorer la mesure. Et le plus important, comment mesurez-vous l'amélioration? Quand il y a un chiffre central que l'on souhaite améliorer, tout est mesurable et il y a des retours d'expérience, ainsi que moins d'arguments, de conjectures et de paris. Imaginez que le ministère de la Protection sociale dispose de toutes les données sur le niveau de qualité de vie, santé, le bonheur, le logement, le sens de la vie, de tous les citoyens israéliens. Et avec ces données, le ministre savait ce qui devait être changé afin d'améliorer la qualité de vie de plus en plus de sections plus faibles de la nation. Chaque projet sera mesuré par le degré d'amélioration de la qualité de vie. Il est facile de mesurer la qualité de vie des citoyens à travers de simples questionnaires. Le deuxième indice important est la disparité du niveau d'égalité des revenus de l'État, connu sous le nom d'indice de Gini. Comment savez-vous ce que ressentent les gens? On leur demande, via une application dédiée du gouvernement. Ils ont déjà inventé une application que les résidents peuvent installer et qui leur donnera une « image de la situation », avec les travailleurs sociaux et les organismes d'aide sociale. Toutes les informations seront au même endroit. C'est-à-dire qu'il est possible de prendre les méthodes existantes qui fonctionnent dans les grandes entreprises de haute technologie et de les appliquer aux résidents par l'État. Un seul système qui centralise tout. La situation souhaitée est de connaître la qualité de vie actuelle des citoyens du pays et de créer une méthode pour la surveiller et l'améliorer. Les données sur les personnes qui ont besoin d'aide sociale doivent être disponibles, bien sûr aussi leur qualité de vie, les dépenses de l'État ainsi comme les associations qui les soutiennent, qu'elles demandent peu d'énergie et que leur effet est grand. Le but ultime des modifications proposées est de fluidifier la circulation des passagers sur les routes et de réinitialiser la signature environnementale des transports. Par exemple, les taxis autonomes peuvent déjà circuler sur les routes interurbaines aujourd'hui, il suffit d'ajuster légèrement la route. Il est facile d'améliorer les transports car aucune amélioration révolutionnaire n'y a été apportée au cours des 50 dernières années. Avec l'aide de mesures constantes, nous pouvons savoir comment nous améliorons les transports. Investir un budget et concentrer les efforts, investir tous les efforts dans la préparation de l'infrastructure pour les transports intelligents pour les 20 prochaines années. Les quatre sections suivantes: arrêt progressif de l'investissement du budget dans la construction d'échangeurs, d'itinéraires de transport en commun et de voies ferrées jusqu'à l'introduction des véhicules autonomes. Investir dans la gestion des infrastructures d'électricité et de transport pour recharger les véhicules électriques. Le budget de transport d'aujourd'hui est suffisant pour les changements demandés, nous n'avons besoin que de personnes qui n'ont pas peur du changement et savent comment le mettre en œuvre. Stationnement hors commerce, voirie, tarification pour plantation d'arbres. Exemple: arrêter la croissance de la végétation qui nécessite de jardiner et passer à la végétation naturelle sans jardiner. Et l'arrosage des échangeurs et des bords de route, réduire le nombre d'accidents de la route. Le nombre d'accidents et de victimes de la route peut être réduit si les idées suivantes sont mises en œuvre. La mesure à l'aide de la mesure. L'État pourra déterminer le prix d'un trajet par kilomètre selon le conducteur. Pour un conducteur dangereux, le prix sera plus élevé. Selon les statistiques mondiales, les taxis autonomes ne seront pas impliqués presque dans les accidents de la circulation. Mesurer tous les trajets et numériser. Avec l'aide de mesures, nous pouvons optimiser le carburant et consommation d'électricité et comprendre si le ministère des Transports fait son travail et améliore le service aux voyageurs routiers, mesurer tous les trajets routiers grâce à une application installée sur les téléphones, trajet, temps, consommation de carburant ou d'électricité. Toutes les assurances, licences, rapports et frais seront payés dans l'application susmentionnée. Les données recueillies lors de la mesure montreront où et quand les problèmes majeurs se produisent. Mesure précise du lieu et de l'heure de l'accident de la circulation, paiement des trajets afin d'étaler les trajets sur la journée et de faire voyager plus de personnes ensemble, une redevance doit être facturée pour chaque trajet. Chaque trajet aura un prix qui sera déterminé selon sa nature, professionnelle, privée ou publique, la route, l'heure, le conducteur et alors qu'il a des infractions, le type de voiture électrique ou essence, et le nombre de passagers. La taxe sur les carburants peut être annulée lorsqu'un paiement est collecté à chaque trajet. Sentier pédestre, vélo et petits outils électriques, ces moyens de transport présentent de multiples avantages. Ils sont ludiques et sains pour les passagers, ne nuisent pas à l'environnement, ne produisent pas de pollution bruit, le coût des trajets n'est pas haut et les outils eux-mêmes sont bon marché et n'importe qui peut se permettre de les acheter. Paver ces chemins entre les colonies et les villes en Israël et en leur sein. Bornes de recharge et éclairage le long des chemins. Voitures électriques autonomes en remplacement de tous les transports publics en Israël. Imaginez des centaines de voitures autonomes s'arrêtant dans des stations désignées en commandant dans l'application. Vous conduisez une voiture jusqu'à une telle station et commandez une voiture autonome dans l'application, et en quelques minutes, elle s'arrête à côté de vous et vous emmène à la station que vous avez choisie. La technologie existe pour les voitures autonomes sur les routes interurbaines, et les conduire est facile. Il ne manque que la libre pensée. Sur les routes interurbaines, quand il y a une infrastructure appropriée, ces voitures sont 10 fois meilleures que les trains. Pourquoi en avons-nous besoin? Pour déplacer les gens facilement et à moindre coût. Pour permettre de vivre même en dehors de Tel Aviv. Télécharger autant de voitures que possible hors de la route. Pour être un exemple pour d'autres pays. Pour développer une industrie autour des voitures autonomes. Nous devons investir dans l'avenir et non dans le passé. L'État investit des milliards dans des projets inutiles tels que la construction d'échangeurs et l'élargissement des routes. Pourquoi cela résout-il le problème? La technologie est mûre pour les voitures autonomes sur les routes interurbaines. Le coût d'exploitation des taxis est négligeable par rapport au coût du train et de son infrastructure comme c'est le cas dans les villes et sur les routes. Il est possible d'utiliser les routes existantes avec ou sans voie unique. Un taxi autonome peut également transporter 10 personnes. Le gouvernement devrait aménager la route et publier un appel d'offres pour les opérateurs de taxi. Pour la conduite sur une route interurbaine, l'argent doit être collecté auprès des voitures particulières. Comment ça marche? Ils circuleront sur la route. La route est adaptée aux voitures autonomes et aux dangers qu'elles présentent. La réservation des véhicules se fait uniquement via l'application. Une voiture peut conduire plusieurs personnes depuis plusieurs gares ou en privé moyennant un supplément de prix. L'avantage par rapport à un train et une voiture particulière est que tout le trafic n'est pas drainé vers des gares individuelles. Il n'y a pas besoin d'attendre, comme un train ou vers le bus, commander une voiture dans l'application et elle arrive. Un train pollue l'environnement et son infrastructure coûte cher. Près de chez soi, car après quelques kilomètres, il y a une gare. La sensation d'un trajet privé. Moins bruyant que le train ou le bus. La capacité en passagers est beaucoup plus élevée, et il y a des milliers de ces véhicules. Basé sur l'infrastructure existante. Le service ne pas s'asseoir, car il y a des milliers de voitures. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter aux gares tout le long. Il n'est pas nécessaire d'entretenir une voie perturbée, des ponts, des barrières et des mécanismes. Il n'y a pas besoin de supporter l'argent dans le train et le mécanisme qui s'enclenche autour de lui. Recevoir, un produit pas assez bon pour ce qu'il aurait pu recevoir si le logement avait été géré. Les grandes maisons, les étages élevés, les penthouses ne font pas le bonheur des locataires. Bon voisin, nature autour, marche à tous les endroits dans le bon sens, piste cyclable, parc. Toutes ces choses sont à l'extérieur de la maison. Et c'est la grande erreur de tout le monde. Pourquoi même s'embêter avec Dior? C'est l'un des facteurs les plus importants et les plus influents pour la prospérité des citoyens du pays, et cela devrait être une priorité absolue pour toute administration en place aujourd'hui ou cela viendra dans le futur. Les dépenses de logement constituent l'une des principales composantes des dépenses totales de chaque ménage en Israël, environ 30% des dépenses des ménages. C'est la dépense la plus importante, L'idée principale est d'optimiser et de réduire les méthodes existantes en simplifiant et en unifiant les processus de planification, d'achat, de vente et de construction. Comme pour toute question où la libre pensée est autorisée, nous cherchons à créer de petits et simples changements qui créent un grand effet. Que signifie prendre soin du citoyen? Chaque citoyen a le droit d'acheter un logement adéquat, en termes de taille et d'extérieur. Les prix élevés des logements qu'une grande partie de la population ne peut pas se permettre sont un symptôme et non le problème. Le problème se voit dans une gestion faible et sans vision. La détermination, les grands changements, même lorsqu'ils sont faits par petites étapes, provoquent un sentiment d'inconfort et parfois même de mal chez certains résidents. Il faut trouver un moyen de faire avancer le pays conformément à la planification et de créer un système équitable pour indemniser les personnes touchées par ces changements. Les entrepreneurs veulent la rentabilité et la viabilité économique et cela passe avant l'intérêt des citoyens et de l'environnement, donc l'État doit intervenir avec la réglementation. Manque de planification à long terme. Bureaucratie sévère dans tous les domaines liés à la planification et à la construction. Inefficacité dans les processus de construction, la vision et les solutions clés. Une économie libre. Bonne infrastructure, gérer la réglementation de la construction et la superviser, mais ne pas construire par elle-même. Construire avec la nature et non au-dessus d'elle. La nature fait pousser des plantes, des buissons et des arbres sans avoir besoin de jardiner, d'arroser et de planifier. Nous devons donc apprendre à construire dans la nature sans trop l'influencer. C'est possible et le profit sera double parce que la qualité de vie des gens s'améliorera et que les dommages à l'environnement seront réduits. Un bon exemple est la Silicon Valley, qui est pleine d'arbres, donc elle ne ressemble pas vraiment à une ville dans la plupart des endroits, mais plutôt à un village, c'est exactement comme ça qu'elle devrait être construite. De plus, il est logique de construire des maisons privées en bois et non en béton, le gouvernement n'a qu'à l'encourager. La Finlande a été classée parmi les pays avec les citoyens les plus heureux du monde. En citant son article publié dans Globe sur la Finlande, on peut comprendre l'importance de la nature sur le bonheur des citoyens. Riménez a confié à CNBC qu'on lui demande souvent pourquoi les Finlandais sont si heureux. Pour elle, cela découle d'une relation étroite avec la nature et notre mode de vie simple. Le PDG finlandais de la société de retour d'information Happy or Not, Mika Mäkitalo, a approuvé les mots. Nous cultivons notre équilibre travail-vie personnelle, croyons en notre entreprise et prenons le temps de profiter de notre proximité avec la nature, a déclaré Mika à CNBC. C'est bien d'aller vers une réinitialisation de la signature environnementale des villes et des communes d'ici 2030, difficile mais possible. Cela ouvrira également les industries du logement autour de cette définition. En cours de route, réduire les écarts entre les riches et les pauvres dans le logement, limiter la construction de maisons et d'appartements privés, il n'y a pas de sens dans des maisons de 1000 m² pour une famille de 4 personnes, à moins de payer des impôts énormes. Les petites maisons sont souvent beaucoup plus pratiques pour les gens, mais ils ne s'en rendent tout simplement pas compte. Lorsque nous vivions aux USA dans une maison relativement grande, il y a eu une coupure de courant pendant 3 jours et nous avons emménagé dans une petite maison d'environ 90 m², 5 personnes. Les enfants ont beaucoup plus aimé la petite maison que la grande maison et ont demandé à y retourner. Ce qui est important, c'est la vue et la verdure depuis la maison et non la taille de la maison. Construction rapide, encourager l'industrie locale par le biais des lois sur la construction et des avantages pour la construction industrielle, modulaire et verte de maisons préfabriquées, par exemple Boxable. Aujourd'hui, avec l'aide de telles entreprises de construction industrielle, il est possible de faire baisser le prix de la construction de 7,000 NIS à 1,000 NIS par Maralma. L'application immédiate et sévère des délits immobiliers est bonne pour nous. Permettre aux délinquants immobiliers d'opérer sans punition encourage le chaos et conduit à l'injustice. Villes et colonies autour des piétons et non des voitures à distance de marche, comme dans les kibboutzim, où les routes sont pavées le long du périmètre de la colonie, et tout l'intérieur de la colonie est accessible uniquement aux piétons, qui empruntent des trottoirs et des chemins qui mènent facilement partout dans l'économie reliant les habitants des villes par une aire commerciale, comme Tel Aviv, et des terrains de sport et de vélo. Commerce dans les quartiers résidentiels afin que les résidents reçoivent tous les services commerciaux sans utiliser de transport. Une option facile et pratique pour rejoindre les centres d'emploi dans les grandes villes. L'urbanisme sera adapté à la marche et non au déplacement en véhicule. Le tout se fera dans des quartiers résidentiels. Chaque agglomération sera conçue de manière piétonne, de sorte qu'elle sera également accessible aux poussettes et aux personnes handicapées et pratique pour le vélo. Une solution pour la mise en œuvre utilisation des terrains existants, utilisation plus efficace des terrains vacants et bâti connexion entre les résidents. Définition des mètres carrés de parcelles en fonction du nombre d'enfants dans un certain rayon, unification des autorités pour unir l'autorité foncière d'Israël, Tabou, Fonds national pour Israël, etc. Bonjour Internet, au revoir les pages, bonjour, bonjour, nous sommes en 2023, il est temps que tout soit en ligne. Une base de données nationale sur les terres et les lots est accessible à tous en ligne. Achat et vente en ligne de terrains, terrains et maisons. Les transactions immobilières seront clôturées en ligne sur Internet, une base de données nationale des fournisseurs d'infrastructures pour les maisons, lors de la location ou de la vente d'une maison, l'échange d'eau, d'Internet, d'électricité, des fournisseurs d'égouts. Tout se fera en un clic. Système national de compensation pour tous les prestataires de services permettra aux parents de suivre les dépenses le courant. Raccourcir la durée des processus juridiques et bureaucratiques de plusieurs mois à quelques heures. Le transport fait partie du logement. Un transport pratique rend les logements pratiques et accessibles. Par exemple, s'il faut 3 heures pour se rendre de Métula à Tel Aviv, beaucoup moins de gens voudront vivre à Métula. Mais s'il y a une autoroute avec des voitures autonomes et qu'il faut 1h30 pour se rendre à Tel Aviv, cela ouvrira Métula à beaucoup plus d'habitants. Le transport intelligent et la transition vers les voitures autonomes, la technologie disponible pour une utilisation sur les routes interurbaines, vont changer de bout en bout la face du logement dans le pays. Îlots de circulation et jardins, réduire à zéro l'irrigation et l'entretien des jardins publics et des îlots de circulation. Les fleurs et autres légumes n'apportent rien à la ville. Il est préférable de planter des arbres et des arbustes qui ne nécessitent ni arrosage ni jardinage. Obtenez des commentaires pour aller de l'avant. Des commentaires sur les projets que vous faites pour vous améliorer dans le prochain projet. Aujourd'hui, le planificateur ne reçoit pas de retour d'information car le projet met 7 ans ou plus à se mettre en place et plusieurs fois il n'est plus en poste et il n'y a alors pas d'apprentissage des leçons et d'amélioration du projet. Comme les entreprises, c'est aussi important dans le logement qu'il y ait toujours une amélioration, dans l'environnement, la satisfaction des locataires, etc. Une économie libre, donne-moi 20 ans, dans ta maison, ton travail, 14 ans dans tes deux filles, et 6 ans dans ton troupeau. Et changer mon salaire, 10 économies libres, mais quand j'étais un garçon de 12 ans, j'ai commencé à lire la section économie du pays parce que j'ai vu mon père lire la section et je voulais probablement être un peu comme lui. Depuis, je n'ai cessé de lire des rubriques économiques et aujourd'hui, cela inclut le Wall Street Journal, Calcalist, The Marker, FT et quelques autres. Mais laissez-moi, mais attendez, le gouvernement doit pousser les industries, comme l'armée qui aujourd'hui sont développées dans il faut développer une industrie autour de l'argent, de l'immobilier, du e-commerce, il y a tout simplement 100 ans en arrière. Les gouverneurs ne comprennent pas du tout le marché. Ils sont coincés dans les trains, les métros et une voie de transport en commun alors que le monde réclame des voitures autonomes. Afin de faire avancer Israël ou tout autre pays, nous devons repenser la façon d'organiser l'économie afin d'aligner les intérêts des entreprises avec les intérêts du pays, qui, nous l'espérons, représente les besoins des citoyens à long terme. Le monde change à un rythme rapide principalement en raison des changements technologiques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs, liés à Internet et de nombreux ingénieurs, mais la gestion de l'économie n'a pas changé et il est souhaitable de la changer en conséquence pour apporter la prospérité des citoyens. L'économie doit être libre et capitaliste mais doit être dirigée par l'État, et pourtant, une économie qui permet le capitalisme avec un haut degré de bien-être dont il est difficile d'abuser. Sinon, l'économie fonctionnera en fonction d'intérêts à court terme. La prise en compte de l'environnement, de la production alimentaire locale, de l'éducation ou de la santé publique sont des considérations qui doivent être dirigées par l'État, sinon l'économie les ignore. Aujourd'hui, l'aspect économique de l'environnement n'est pas pris en compte et lorsqu'on propose un produit où seul le profit du service est pris en compte. Israël a l'un des plus hauts niveaux de neige au monde, mais à mon avis, le niveau de vie est moyen. Le problème est urgent dans le secteur public et son fonctionnement. La grande déconnexion, comprendre la « grande déconnexion » est critique. Le gouvernement ne contrôle pas efficacement le secteur public à cause de 3 niveaux de gestion en plus entre eux, les comités d'entreprise et les intérêts émetteurs quand le secteur public est au centre des partis. Il est possible qu'en Israël le secteur public contrôle dans une certaine mesure le gouvernement. En Israël, 750 000 personnes travaillent dans le secteur public avec un coût de 200 milliards de shekels et 40% du budget de l'État. Aujourd'hui, le secteur public va dans la mauvaise direction et à une vitesse inappropriée. le secteur public est la clé pour changer la vie en terre d'Israël. Le contrôle du gouvernement central sur lui et le gouvernement local est la clé de l'exécution des décisions du gouvernement. Un secteur public efficace a besoin d'une option pour récompenser de manière significative les bonnes personnes et licencier les moins bonnes personnes. Une personne brillante vaut 1000 fois plus pour le système qu'une personne ordinaire, il doit donc y avoir une option pour la récompenser en conséquence. Toutes les façons dont le secteur public fonctionne doivent passer à la numérisation et aux mesures, tout comme le secteur privé. Tous les emplois possibles, du secteur public au secteur privé. Il vaut mieux que le secteur public s'occupe de la régulation, de l'encadrement et des appels d'offres et moins du « fonctionnement », une solution à la capacité de changement est de ne pas nuire aux conditions des salariés existants et d'accommoder la nouvelle économie sur les seuls nouveaux salariés témoins. La chose la plus critique est qu'il n'empêche pas le licenciement des employés. Cela provoque un manque de peur de ne pas travailler. Cela concerne tous les employés. Qu'est-ce que l'économie a même besoin d'accomplir? L'objectif de l'économie est la prospérité des citoyens et non l'augmentation du produit. La rationalisation et le contrôle total du secteur public. Aujourd'hui, il faut paver une infrastructure pour le e-commerce, etc., dont certaines sont virtuelles, comme une base de données nationale d'identité qui facilitera la tâche des entreprises et de leurs clients, ainsi que la prévention des fraudes, la compensation facile des paiements. La difficulté à construire l'infrastructure susmentionnée est que le gouvernement ne comprend pas où va la nouvelle économie et ce dont elle a besoin pour avancer. Voyez avec Bitcoin et ses amis que sans réglementation il n'y a pas de stabilité pour les devises car il n'y a pas d'organisme central qui applique les lois, il est donc clair que pour qu'un nouveau type de monnaie réussisse, il doit être sous la supervision intelligente du gouvernement. Principalement, cela donnera des avantages à l'économie par rapport à l'ancienne monnaie et ils seront en mesure de construire différentes industries et entreprises avec la réglementation et l'application. Qui bénéficiera et qui perdra de l'argent numérique ? Des gens comme moi et les citoyens d'Israël peuvent apprécier les avantages de la monnaie numérique, tels que des transactions plus rapides et des frais moins élevés. Par exemple, une personne vivant dans une zone rurale sans accès aux banques peut utiliser la monnaie numérique pour payer des factures ou recevoir des paiements, améliorant ainsi son inclusion financière. Les institutions étatiques telles que la police, les autorités fiscales, les régulateurs et les tribunaux bénéficieront d'une transparence accrue, ce qui facilitera l'identification de l'évasion ou de la fraude fiscale, comme le fait d'attraper un propriétaire d'entreprise qui déclare ses revenus. Peuvent bénéficier de transactions plus rapides, ce qui les aidera à mieux gérer leur trésorerie. Par exemple, un propriétaire de petite entreprise peut recevoir des paiements instantanément, ce qui lui permet de payer ses fournisseurs à temps. Les nouvelles entreprises qui adoptent le shekel numérique peuvent attirer des clients férus de technologie qui préfèrent les paiements numériques, tandis que les entreprises de commerce électronique peuvent voir leurs ventes augmenter car de plus en plus de personnes utilisent de l'argent numérique pour faire des achats en ligne, comme quelqu'un qui achète des produits d'épicerie en ligne avec de la monnaie numérique. Bénéficier de l'argent numérique, les criminels impliqués dans les activités illégales auront des difficultés à dissimuler leurs transactions, car l'argent numérique facilite la traçabilité. Par exemple, un trafiquant de drogue utilisant de l'argent numérique peut être plus facilement retrouvé par les forces de l'ordre. Les banques et les sociétés de cartes de crédit pourraient perdre des affaires, car la monnaie numérique peut offrir des options de paiement plus rapides et moins chères, comme quelqu'un utilisant la monnaie numérique pour transférer de l'argent à l'international avec des frais moins élevés. Les compagnies d'assurance peuvent faire face à plus de concurrence, car les gens peuvent facilement changer et payer pour d'autres options, comme quelqu'un qui compare les polices d'assurance automobile en ligne et change de fournisseur en quelques clics. La collecte aura du mal en raison de la transparence accrue et de la facilité de suivi après les activités financières. Par exemple, il peut être plus difficile pour un blanchisseur d'argent de cacher ses transactions avec de l'argent numérique, car les autorités peuvent plus facilement suivre le flux de fonds. L'argent numérique est bon pour les juifs, la monnaie numérique est bonne pour plusieurs raisons. Cela augmente le commerce numérique en Israël et facilite les achats en ligne, comme l'achat de vêtements ou d'appareils électroniques dans les magasins locaux. Il aide à suivre les citoyens de manière anonyme, en utilisant les informations pour améliorer les services publics et les infrastructures en fonction de leurs besoins. La monnaie numérique encourage également la concurrence dans le secteur financier, car elle permet à de nouveaux acteurs d'offrir du crédit, réduisant ainsi la dépendance aux banques et aux cartes de crédit traditionnelles. Cette concurrence peut entraîner une baisse des frais pour des services tels que les conversions de devises, ce qui rend moins cher pour les gens d'échanger de l'argent en voyageant ou en envoyant de l'argent à l'étranger. Avec la monnaie numérique, de petites transactions, telles que le don d'un shekel à une association caritative, deviennent possibles plus. Il favorise également la concurrence entre les banques pour les comptes d'épargne et les taux d'intérêt sur les dépôts, au profit des clients qui peuvent trouver de meilleures offres. Faire respecter le taux d'intérêt maximum sur les prêts devient trop facile, tout en protégeant les emprunteurs des taux élevés. La monnaie numérique élimine le besoin de cartes de crédit, permettant aux gens d'effectuer des paiements directement à partir de leur portefeuille numérique. Cela signifie également qu'il n'est pas nécessaire de transporter un portefeuille physique, ce qui rend les transactions quotidiennes plus pratiques. Le pays peut mieux comprendre l'économie, car il est plus facile de suivre et d'analyser les transactions en monnaie numérique. L'argent numérique est plus difficile à voler et offre plus de sécurité aux utilisateurs. Cela réduit également le besoin de factures physiques, rationalise les paiements, la facturation et les déclarations fiscales. De plus, une base de données nationale d'identité est nécessaire pour supporter l'argent numérique et pour le transférer à des fins professionnelles. Une facture sera émise automatiquement. Tout sera géré via une API à laquelle les entreprises et les organisations seront faciles et pratiques à connecter. Supervisé par l'État, l'argent qui sort est totalement illégal pour chaque compte. Des sous-comptes peuvent être ouverts avec des privilèges, qui peut faire quoi, pour les enfants, etc. Chaque personne et entreprise en Israël aura une identité numérique qui est liée au montant d'argent en leur possession. Chaque transfert d'argent sera effectué d'une pièce d'identité à une autre identité. Sur un tarif maximum pour le transfert d'argent, les prêts, l'ouverture de sous-comptes, etc. Les transferts d'argent peuvent être annulés en cas de vol, etc. L'argent peut être gelé dans les comptes, seuls ceux qui reçoivent des autorisations, de garanties, de prêts, etc. peuvent le retirer. L'État peut émettre de l'argent numérique et en est responsable tel qu'elle est responsable de la sécurité, pas des banques. Il est possible de limiter le montant maximum qu'une entité peut retirer d'un compte avec un ordre permanent, par exemple, permettre à Bezeq de retirer jusqu'à 1,000 NIS. Un client peut allouer un montant à être géré au sein du compte par les banques et sociétés assimilées, sans le transférer sur leur compte. Ces entreprises contrôleront le montant à déterminer et le client pourra voir leurs actions facilement. Pourquoi n'ont-elles pas créé un shekel numérique il y a 10 ans ? Parce qu'il n'y a pas d'organisme technologique comme le ministère du numérique qui puisse prédire la technologie de pointe et l'intégrer dans les systèmes existants. Exactement ce que Raphaël a fait pour la technologie militaire devrait être fait pour transférer Israël vers le numérique et sur la voie de créer une industrie privée autour de lui. Quelle est la relation entre l'économie et l'environnement ? Une solution pour l'environnement par l'économie ? Réduction d'impôts lorsque le produit ou le service aide à l'environnement et impose une « amende » lorsque le produit nuit à l'environnement. Limiter l'économie à un minimum de dommages pour l'environnement. Déterminer un quota annuel de signatures environnementales par personne, mesurer la signature et réduire le quota au fil des années, indemnisation ou confiscation d'entreprises et de services en fonction des dommages causés à l'environnement, conseil de travailleurs et grève, syndicat de travailleurs et corporations pour déterminer clairement ce qui est autorisé pour chacun en fonction de l'intérêt à long terme de l'État. Le secteur privé en Israël, environ 2,3 millions de personnes travaillent à temps plein dans le secteur privé. Renforcer les peines pour les infractions commerciales d'escroquerie, d'abus de confiance et de falsification de documents sociaux et renforcer l'application de la loi. Une telle action permettra non seulement de rendre justice, mais aussi de rendre les gens plus confiants. Réduire la durée des procès commerciaux à quelques semaines. Une révolution dans le système judiciaire, nomination de juges énergiques et forts dans les tribunaux économiques et dans les procès des délits économiques ou commerciaux. Base de données gouvernementales et notation de crédit facile à utiliser. Législation de loi claire pour la syndicalisation des travailleurs. Embaucher et licencier des travailleurs facilement mais en préservant leurs droits à long terme. Une définition claire d'un « travailleur contractuel » dans le « nouveau économie ». Assimilation de l'anglais dans tous les systèmes économiques. Commerce électronique du futur. Encourager l'ouverture de boutiques en ligne pour rationaliser les échanges et faire baisser les prix. Établissement sur l'immobilier commercial, permettra aux entrepreneurs de créer facilement de nouvelles entreprises et de faciliter la concurrence des entrepreneurs avec des entreprises géantes telles qu'Amazon. Un exemple de l'Inde, où la mise en œuvre s'est faite avec un grand succès, un réseau commercial indien avec l'encouragement de l'État, comme l'a écrit Herzl dans le livre Alt Newland, parce que tout le monde savait que les entreprises de livraison avec la liste de prix, les catalogues et les publications dans les journaux, les devanceraient. Le petit commerce et le colportage n'étaient plus rentables. Aujourd'hui, Le commerce électronique remplace les magasins physiques et l'État devrait l'aider à être égalitaire, et non géré par une seule entreprise. Cela est possible en mettant en place une infrastructure nationale de livraison gérée par des sociétés privées. Le nouveau bureau qui vous protège des entreprises en exerçant la libre pensée comprend que l'intérêt des entreprises est de gagner plus, et cela est souvent contraire aux bénéfices des aujourd'hui. Il existe des organismes de protection des consommateurs très faibles en Israël. Il s'agit de la Consumer Protection and Fair Trade Authority, et aux États-Unis, de la FTC. Leur rôle pour que les citoyens du pays bénéficient et ne perdent pas doit être plus central et oui, le ministère de la Consommation devrait être un ministère distinct et fort avec un ministre. Aujourd'hui, le secteur des affaires contrôle les citoyens. Et pour les citoyens consommateurs, que nous sommes tous, il n'y a pas de véritable organe qui les protège et dirige le secteur des entreprises. Vous verrez que plus tard, après avoir activé la libre pensée, il est possible de faire avec les systèmes de notation nationaux, d'exprimer une position, ainsi que de numériser tous les produits de l'économie. Il n'y a rien de plus important que de protéger les consommateurs car les citoyens sont des consommateurs la plupart du temps. Par exemple, un produit qui nécessite une protection du ministère de la Consommation, les dentifrices tels que Sensodyne contient aujourd'hui une substance probablement toxique, le dioxyde de titane. Ceci est un petit exemple parmi des milliers d'exemples. Aujourd'hui, en Israël et aux États-Unis, il n'y a pas d'organisme sérieux qui protège les consommateurs. Le silence est un silence étouffant sur des questions importantes telles que la santé, les finances et d'autres comme cela, tout comme l'action de l'empoisonneur. Comme inciter les entreprises du secteur alimentaire à servir des repas adaptés à l'homme, sans huile, sel ou sucre, et à ce que les aliments vendus au public soient adaptés à l'homme. Un ministère de la consommation fort et doté d'une vision peut orienter les produits dans des directions saines et généralement plus efficaces. Il existe aujourd'hui un Far West non surveillé, parfois seule l'information et la notation suffiront aux consommateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus de déclaration claire sur les produits financiers adaptés aux épargnants à long terme. Il n'y a pas de déclaration claire sur les taux d'intérêt tueurs et les cartes de crédit. Et ce ne sont que de petits exemples. Oui, les faibles sont bien exploités. Les consommateurs et les entreprises ont besoin de la publicité trompeuse sur les produits qui célèbrent et induit en erreur des millions de consommateurs. Un organisme habilité est tenu de donner des instructions claires sur ce qui peut être publié et ce qui ne l'est pas. D'autre part, les entreprises d'aujourd'hui doivent traiter avec le ministère de la Santé, le ministère des Cultes, le ministère de l'Économie et d'autres ministères afin de savoir si elles répondent aux exigences de la loi. De la consommation avec des experts dans les différents domaines. Un tel bureau résoudra le problème des entreprises et le problème des consommateurs ensemble. Le rôle du ministère de la Consommation est que l'information aux consommateurs soit aussi précise que possible. Il améliore essentiellement la qualité des produits et des services dans l'économie. Le conflit d'intérêts aujourd'hui entre l'économie et les citoyens, il y a un conflit d'intérêts entre la protection du public vis-à-vis des entreprises, et entre le ministère de l'économie qui veut que les entreprises se développent, donc nous avons besoin d'un bureau indépendant pour le ministère de la Consommation. Le ministère des Finances et de l'économie veut en réalité augmenter l'économie, sans intérêt à protéger le consommateur. La protection du consommateur, qui est le ministère de la Consommation, est le frein et le défenseur de l'économie libre, ce qui est très important pour une production importante et correcte pour l'économie. Le ministère de la Consommation protégera les consommateurs contre l'exploitation et la tromperie involontaire par les entreprises. Comment transformer les petites lettres en grosses lettres? Les petites lettres et le langage juridique élevé empêchent aujourd'hui les consommateurs de vraiment comprendre le danger auquel ils sont confrontés. La numérisation de tous les produits ainsi que les petites lettres des produits et services dans un langage simple qui vous permet de scanner le code barre et obtenir une description simple résoudra le problème et donnera également au ministère de la Consommation la possibilité de suivre tous les produits. Les utilisateurs ne lisent pas vraiment les petits caractères, ils doivent donc être simplifiés, c'est-à-dire que chaque produit proposé aux citoyens sera téléchargé sur le site web du ministère de la Consommation, pour être suivi. Cela permettra au ministère de la Consommation d'améliorer les services et produits destinés aux citoyens afin qu'ils soient en mesure de savoir ce qui leur est proposé. Une infrastructure nationale de notation des services et des produits. La construction d'une infrastructure nationale de notation des entreprises par les clients qui être très utile pour le commerce électronique et recevoir de bons services et produits pour les citoyens. En augmentant la qualité des produits et services pour les consommateurs, vérifiez la possibilité de créer un système national où les citoyens évalueront les produits qu'ils ont achetés. Bien sûr, Une telle infrastructure devrait être développée par des entreprises privées. Il existe un exemple d'un tel système qui fonctionne bien et c'est celui d'Amazon. Comment mesurer l'activité du ministère de la Consommation? Mesurer le succès du ministère par un indice qui consiste en la satisfaction des citoyens à l'égard des services et des produits ils reçoivent. Cet indice est facile à calculer par les notes moyennes des consommateurs concernant les services et produits qu'ils ont achetés, données qui existent actuellement, dans ma libre imagination, dans le système national de notation des services et produits. Le résultat du ministère de la Consommation est pour réduire le coût de la vie car le ministère de la Consommation soutient la concurrence par le biais d'une notation, d'une liste les entreprises. Comment les citoyens sont exploités aujourd'hui? Ce qui est le plus triste, c'est que les plus faibles de la société sont les plus exploités par la publicité mensongère et les charlatans, parce que les plus faibles de la société sont les moins éduqués. Il est vrai que seule l'éducation peut aider les plus faibles de la société, mais un ministère de la consommation fort aura un impact énorme sur eux. Il est très difficile pour les citoyens aujourd'hui de savoir si un entrepreneur a une licence ou un médecin a une licence. Il est donc très judicieux de développer un système national unique pour l'examen des licences des personnes et des entreprises, sans certificat physique. Il existe de nombreux « experts » non agréés, tels que des newsletters, des médiums et divers thérapeutes qui doivent limiter leur publicité aux consommateurs. Empêcher la publicité trompeuse, présenter des informations claires et vérifiées sur les emballages des produits, les aliments. Un tribunal rapide pour les consommateurs contre les entreprises. Il serait très sage d'établir une médiation entre les consommateurs et les entreprises avant d'aller au tribunal et pour ceux qui n'ont pas aidé, il n'y a pas de tribunal pour les réclamations jusqu'à un petit nombre d'entreprises des consommateurs et vice-versa. Cela évitera la procrastination et les frais juridiques élevés. Le tribunal ne peut pas relever du ministère de la Consommation en raison d'un conflit d'intérêts, le ministère de la Consommation ferait bien de pousser à la création d'un tel tribunal spécial. Un tel tribunal s'occupera également des poursuites contre les entreprises étrangères qui peuvent aujourd'hui profiter du fait qu'il est difficile de les poursuivre parce qu'elles ne sont pas en Israël. Principes généraux pour un système de gouvernement réussi pour les résidents, leur satisfaction de la vie, leur vie personnelle sécurité et plus pour permettre l'évolution du système de gouvernement, une partie importante des problèmes en Israël provient d'un système de gouvernement qui ne correspond pas à la réalité. La faiblesse du système de freins et contrepoids en Israël se manifeste lorsque l'autorité législative est composée d'une chambre, la Knesset, sans une deuxième chambre, comme le Sénat aux États-Unis et la Chambre des Lords en Angleterre, qui puisse équilibrer et retenir la première maison, a écrit Yitzhak Zamir dans son livre, La Cour suprême. Afin de permettre l'évolution du système de gouvernement, nous devons comprendre tout d'abord que nous devons décider d'un mécanisme de changement du système qui maintienne le pays démocratique mais essaie toujours de trouver le système le plus approprié. Des décisions basées sur des faits et des informations actuelles, il est possible de faire d'Israël un modèle pour ses citoyens et un exemple pour les autres nations uniquement en changeant le système de gouvernement, en changeant la structure du gouvernement et le système électoral. Organiser. Vous ne devez pas faire de compromis sur un état médiocre. Il suffira d'atteindre l'état parfait et d'investir beaucoup d'énergie et de force dans la gestion de l'ordre, de la visibilité et du comportement des citoyens. La différence entre les États-Unis et les pays nordiques et Israël n'est pas dans la sagesse du peuple, mais seulement dans l'ordre du gouvernement et l'ordre des processus en général. Les discussions et les débats qui seront nécessaires pour arriver au bon système du gouvernement devraient être scientifiques, basés sur des faits, et non émotionnel copier dans le système de gouvernement les meilleurs mécanismes de prise de décision des entreprises prospères dans le monde tels que Tesla ou Google. Il n'y a aucune raison pour que le gouvernement ne soit pas aussi efficace que entreprise. Les entreprises sont mesurées par l'argent et le gouvernement sera mesuré par la prospérité des citoyens. Si travailler dans le secteur public était un signe d'honneur, il serait plus facile de recruter de bonnes personnes et pas seulement par des salaires élevés. Jusqu'à aujourd'hui, les régimes n'ont changé le système de gouvernement qu'après des événements extrêmes, les États-Unis, guerre avec l'Angleterre, le Japon, l'Allemagne, guerre mondiale, Israël, Holocauste. On peut voir qu'après un nouvel ordre de régime, il y a un boom suivi d'un déclin car le nouveau régime était correct pour son époque, mais n'a pas continué à évoluer dans le temps. Et c'est là le problème des régimes, la structure et le système électoral ne changent pas, car il n'y a pas d'organe objectif qui dicte le changement. Ici, il est nécessaire d'établir un organe aussi important à titre d'exemple, la maison du gouvernement. Important de convenir que le système doit être changé et pas nécessairement de s'entendre sur ce que le système sera, c'est une affirmation qui va de soi. Droite ou gauche, conservatisme ou libéralisme n'est pas pertinent. Chaque problème nécessite une solution basée sur des données et une vision à long terme. Autant que possible se baser sur le bon sens dans le partage d'informations, mais pour cela il faut un leader de niveau 5 étoiles. En Israël, il y a eu une demi-tentative de changer le système électoral, mais pas de changer le système gouvernemental.